Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio. Jonathan Trudeau.
Joe Trudeau. Et Maude Boutet. Maude Boutet. Franchement dit.
Cube Radio.
Bon, vendredi aujourd'hui, on est le 29 mai 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement dit. En compagnie de Maude Boutet. Bon vendredi, Maude.
Salut, bon matin.
Et on profite de ces dernières heures de chaleur parce que... Ouais. En tout cas, nous autres, ici à Lévis, là, on le sent que ça va être de péter.
Ah ouais, le ciel est menaçant.
Le ciel est menaçant. Puis c'est drôle parce que je disais à notre collègue Achille à la mise en onde, quand ici à Lévis, là, j'en ai déjà parlé, moi je suis très exposé au vent. Je suis comme vraiment face à... au point d'un quartier un peu surélevé, face au fleuve. Face à l'île d'Orléans. Donc, dès qu'il y a des orages, c'est pas rare que le courant se fait shaker dans le coin. Et là, dans ce temps-là, on a des micro-coupures de courant. Je me souviens pas, on a perdu l'électricité, ça fait quoi, 4 ans qu'on est ici, là.
Ouais.
Tu sais, mettons, des 1h, 2h, 5h, 6h, c'est jamais arrivé. Mais des micro-coupures de 3 secondes, ça arrive fréquemment.
Là,
si ça arrive, ça veut dire que le beau petit Comrex que j'ai à côté de moi qui me permet de faire de la radio comme si j'étais en studio avec toi, lui, il faut qu'il se reboote.
Ça se peut
cool. Que vous me perdiez.
Cool.
Je sais pas si tu peux baisser le bruit des écouteurs à côté de toi, Maude.
Je les ai déjà baissés, il y en a plus.
Ah ouais, parce que j'ai comme, je m'entends, j'ai comme un petit retour de son dans
à cause de moi, peut-être, j'avais oublié mon son
d'ordinateur. Bon. C'est de ma faute,
mais voilà, ici, ça n'a pas l'air de péter, pas en tout, sur le bord de péter, en fait, le ciel est bleu.
OK.
Bleu, et je voulais juste te dire, juste de même, là, qu'en Abitibi, aujourd'hui, là, présentement, il fait 18 degrés. On va passer demain à 6 degrés et dans la nuit, il va faire moins 1. Fait qu'on a eu des températures, l'extrême là, de température, c'est assez...
D'autres annoncent 13 à Québec dimanche.
C'est quelque chose.
Dimanche, après ça, ça 13 remonte, à Québec mais... avec un gel pendant la nuit.
Et de passer de 18 à moins 1, puis je sais pas, là, dans les derniers jours, ils ont probablement eu aussi pas mal de chaleur. Et pareil.
Ouais. Deux petits trucs que je voulais jaser en ouverture d'émission. Pour ce qui est de Maxi, j'en ai parlé avec Richard, puis on va reparler avec Geneviève tantôt. Ce qui se passe aux États-Unis, ça donne bien. C'est Luc Laliberté qui est avec nous le vendredi. Donc,
très content.
Tout ce qui se passe au Minneapolis, on va en parler avec lui. Également, les dérapes du président américain qui veut censurer Twitter. C'est assez épouvantable. Revenons un instant sur André Boisclair. Et je trouve ça intéressant parce que j'écoutais Mario puis Benoît en parler, j'ai lu ou entendu d'autres collègues des médias aborder la question, puis je pense que tout le monde, avec raison, se garde une petite gêne sur la nature des accusations. On n'a aucun détail.
Mm-hmm.
Je vais dire un truc là-dessus, précisément. Il faut se garder de juger les gens. Tout le monde est non coupable jusqu'à preuve du contraire. Oui. On ne doit pas faire de procès sur la place publique. Par contre, je veux juste qu'on se dise que dans la gradation, il y a quand même une différence entre, par exemple, des allégations qui sont faites gratuitement sur la place publique,
oui,
une plainte qui est logée à la police, et la police qui enquête, et le dépôt d'accusation.
C'est ça.
Donc là, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne sait pas si André Boisclair est coupable, mais une chose est certaine, c'est qu'il y a eu des allégations, il y a eu une plainte, il y a eu enquête, et à la fin de cette enquête-là, il y a la police et le DPCP qui ont jugé qu'il y avait matière à déposer des accusations. Est-ce que ça a fait de lui une personne coupable automatiquement? Non, absolument pas, mais ça met quand même en lumière le sérieux de la chose.
Oui, tu fais bien de le rappeler, puis... Si vous voulez bien comprendre toutes les nuances puis tous les tenants et aboutissants de qu'est-ce que ça fait en gros puis c'est quoi cette accusation-là qui a été déposée, la chronique de Félix Séguin ce matin à Cube est super éclairante par rapport à ça.
Il est-tu bon, Félix? Hein? Mon Dieu, qu'il est bon.
Ben oui. Tu sais, je peux-tu dire autre chose que ben oui, il est bon. Il est super bon vulgarisateur. Puis, tu sais, par rapport aussi à l'aspect agression sexuelle armée, juste bon de préciser aussi, puis on dirait la première chose à laquelle on pense, puis moi, la première chose à laquelle j'ai pensé automatiquement hier, c'est « Eh bien, tabarnouche, y avait-tu un gun? Y avait-tu un couteau? »
Tout le monde se pose des questions là-dessus. Hein.
Oui, mais ça peut être n'importe quoi. T'sais, c'est pas nécessairement justement une arme à feu ou, comme je disais, un couteau. T'sais, ça peut être n'importe quoi, puis rendu là, on le sait pas plus que personne d'autre, fait qu'on va se garder une jeune là-dessus, mais les rumeurs et spéculations vont bon train présentement.
Une chose est certaine, c'est quand on regarde le parcours d'André Boisclair, il y a quelque chose de tellement pathétique. Là. C'est une personne qui était vouée à un avenir extraordinaire, élu pour la première fois à 23 ans, un jeune ministre, intelligent, s'exprime bien, du charisme, paraît bien. Dynamique, tu sais, il sortait du moule du politicien traditionnel, là, de il a tout scrappé, tu sais, il a tout scrappé. Puis là, cet événement-là, on peut le mettre de côté, là. Dans Balance, vous n'êtes pas obligé de le mettre si vous voulez, parce qu'effectivement, il n'est pas encore bon déclaré coupable ou quoi que ce soit, mais quand même, tu sais, la consommation de cocaïne, son séjour à New York comme délégué général qui a pris fin de façon abrupte parce qu'il y avait des allégations, bon, des fréquentations douteuses, des trucs d'argent.
La dernière fois, moi, comme je disais à Félix, que j'en ai entendu parler, c'est quand il était à la sortie d'un party à Québec, qu'il avait foncé dans un poteau, un lampadaire.
Ben oui.
Parce qu'il était chaud.
Ouais,
c'est quand c'est ton plus récent souvenir de la personne.
C'est la champagnerie, quelque chose comme
oui,
ça.
Oui, c'est la champagnerie. Puis c'était quelque
fermé,
chose.
Malheureusement,
de...
depuis ce temps-là.
C'était un party. Voyons, j'ai pas le mot en tête, un burlesque.
Ah, OK.
Un party burlesque, fait qu'il y avait.
Mais il y a quelque chose qui se dégage, là. On entend les commentaires des gens, mais il y a quelque chose qui se dégage. Et j'adhère à ça, là, à 100%. Et ça, c'est un constat qu'on peut faire, là. Pas besoin d'aller en cours ou de tester la fiabilité des accusations, des témoins ou quoi que ce soit. André Boisclair est la personne la plus détestable que j'ai vue en politique de ma vie. Cette personne-là était, elle l'est encore, tellement imbue d'elle-même. On le croisait dans les corridors. Moi, c'était à l'époque où il était chef de l'opposition officielle. Là. Fendant, pédant, incroyablement désagréable. Moi, j'avais travaillé aux affaires municipales pour Nathalie Normandeau. C'était quelques années après mon passage, lui, à titre de ministre des Affaires municipales. Et au-delà des histoires de cocaïne qui ont fait surface ensuite quand il était nommé chef du Parti québécois, là, les histoires où son chef de cabinet allait acheter la cocaïne, que ça sniffait dans le bureau. Nous autres, on regardait le bureau du ministre et on se disait « Peux-tu croire que quelqu'un qui a déjà fait des... » bureau-là, là, parce que c'était ça, les allégations, tout ça. Mais au-delà de ça, les fonctionnaires étaient traumatisés de son passage. C'est pas quelqu'un qui a été apprécié, absolument pas. Donc, bref, je lui souhaite pas le malheur, mais j'ai de la misère à être sympathique à sa cause. Et pour le reste, les tribunaux qui vont faire leur travail. Je veux qu'on aille rapidement parce qu'on va aller à Emmanuel Latraverse au retour de la pause, mais on dit souvent que good news is bad news, là, ou is no news, là. On n'en parle pas quand il y a des belles nouvelles, ou en tout cas, on n'en parle pas assez. Hier, on n'a pas eu le temps de le faire. Je veux vraiment, là, prendre un instant pour lever mon chapeau et dire à quel point je suis fier d'être un Lévisien, de résider à Lévis. La ville de Lévis, avec en tête son maire Gilles Léoyer, qui a mis de l'avant une initiative toute simple, mais belle, qui fait du bien, qui est responsable, qui démontre une municipalité qui est proche de ses citoyens. Imaginez-vous donc que depuis quelques semaines, c'est le soleil hier qui a sorti ça, depuis quelques semaines, il y a des pompiers, des employés municipaux, des fonctionnaires qui se sont portés volontaires pour prendre la liste des citoyens de Lévis. Puis là, t'sais, imaginez-vous comme là, je sais que pas même qu'ils font le mec une fléchette, là, t'sais.
Ouais.
Mettre la liste au mur, là, puis il envoie la fléchette, puis dit, tiens, Madame Tartampion, parfait, son numéro, il est là, on appelle Madame Tartampion. Puis, comment ça va, vous?
Êtes-vous correct?
Comment ça va, le confinement? Êtes-vous correct? Comment vous vivez ça? Avez-vous envie de jaser? Avez-vous besoin d'aide? Si vous avez besoin d'aide, on va vous référer. C'est-tu des questions par rapport à des réglementations? C'est-tu de la santé, santé physique, santé mentale? Si vous avez besoin, là? On va vous aider. Je trouve ça tellement beau.
Puis, sais-tu quoi, ça me fait penser à une nouvelle qui était sortie en tout début de crise. C'était le 19 mars que le journal rapportait ça. C'est la mairesse de Mercier, Lise Michaud, puis un conseiller municipal, un directeur général aussi, qui, eux, appelaient tous les aînés de leur ville. Prenait le téléphone, puis un à un se disait, bon, il y a 1600 aînés, des personnes qui sont âgées de 70 ans et plus, qui sont confinées chez eux. On va les appeler, puis on va leur demander comment ça va. Avez-vous besoin de quelque chose? c'est super simple. Ça prend du temps, mais il faut prendre le temps, tu sais.
Ben oui.
Fait que je trouve ça très louable de faire ça. Puis, let's go, les vies, Colin.
Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, bon, certains vont dire, ouais, mais là, attends, tu sais, mettons à Montréal, c'est pas vrai que tout le monde peut faire ça. Bien, premièrement, à Montréal, il y a beaucoup plus de fonctionnaires. Il y a beaucoup plus de monde, mais il y a beaucoup plus de fonctionnaires. Tu sais, puis Lévis, là, c'est pas une petite binerie, là.
Non, il y a du monde.
C'est combien qu'on a plus, surtout depuis les fusions municipales, là.
Lévis, population Lévis.
C'est-tu comme 225 000?
On est rendu, recensement 2016 de Statistique Canada, on aurait une population qui dépasse 145 000 habitants.
145
000. Bon, oui. Croissance qui se situe entre 1 000 et 1500 nouveaux résidents chaque année.
OK. Ben, bravo. Bravo. Tu sais, c'est tout simple. Ouais. Là, je ferai pas 15 minutes de radio là-dessus, mais qu'une municipalité dise on va s'assurer que nos citoyens se portent bien. Et dans le papier du soleil, il y avait des exemples qui étaient rapportés où ils ont parlé, par exemple, à une personne qui est nouvellement veuve. T'sais. Sa conjointe est décédée, un octogénaire, sa conjointe est décédée, puis tabarouette, t'es content d'avoir un appel d'un pompier de la ville qui dit hey, « Moi, en ce moment, je suis pas sur un appel, là, j'appelle les gens au hasard, ça, est-ce que ça va bien? Est-ce qu'on peut vous aider? » T'sais, bravo, c'est pas pour rien que les Lévisiens sont heureux. Là.
Oui,
ben, la cote de bonheur là, ici en Chaudière-Appalaches à Lévis est élevée. Là.
J'allais c'est dire, même toi, si t'avais reçu l'appel, t'aurais fait « Oui, allô, oui, ça va. » Puis quand c'est sûr que si tu raccroches après ça, t'es comme « Ah, OK, ben ça vient de se passer,
ben,
c'était le fun, j'ai quelque chose à raconter en plus. » Le fait d'avoir quelque chose à rapporter est précieux en temps de pandémie parce qu'il ne se passe pas grand-chose.
Voilà. Alors, bravo à la ville de Lévis. Bougez pas, on vient dans quelques petites secondes.
Vous écoutez Franchement dit.
On va devancer notre rendez-vous du vendredi avec la collègue Emmanuelle Latraverse parce que Justin Trudeau, lui, devance son rendez-vous à 10h30. Emmanuelle qui sera en ondes SN pour analyser tout ça, mais en attendant, on la rejoint au bout du fil. Salut Emmanuelle.
Bonjour.
Je trouvais ça très intéressant de lire le topo de la Presse Plus ce matin où la directrice de la santé publique de Montréal, la docteure Mylène Drouin, semble pratiquement régler des comptes. Nos collègues Mario Dumont, Benoît Dutrisac en ont parlé ce matin. On a l'impression que la crise, elle n'est peut-être plus aussi intense qu'elle l'était, mais encore présente, là. Ça va pas, tout n'est pas au beau fixe dans la région de Montréal et pourtant, déjà, la directrice de la santé publique de Montréal semble identifier là, des lacunes. Elle les nomme. La pandémie aurait dû être gérée à Montréal. La baisse des investissements en santé publique, ça a nuit, tout ça. As-tu été surprise, la teneur des propos de la docteure Drouin?
J'ai pas été surprise de ses propos parce que, objectivement, qu'est-ce que fait la docteure Drouin? Elle dit tout haut ce que le premier ministre a concédé à certains égards bien poliment, sur le côté complètement dysfonctionnel de la gestion des CIUSSS et sur l'impact absolument néfaste des coupes en santé publique dans les dernières années, à savoir de dire que la crise aurait dû être gérée à partir de Montréal, ben là, la docteure Drouin ose dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. On s'entend. Dès les débuts de la pandémie, c'était clair que Montréal serait davantage touché, que le problème serait à Montréal. Et bien qu'on ait beaucoup comparé la gestion de crise du premier ministre Legault à celle de Lucien Bouchard dans la crise du verglas, il y a une différence majeure. Dans la crise du verglas, le gouvernement avait déplacé son centre des opérations au cœur de la crise, qui était à Montréal, alors que le gouvernement Legault a fait le choix de rester à Québec. Et c'est évident que ça a eu un impact. Si ça n'en avait pas eu, M. Legault ne se serait pas senti le besoin de venir faire ses visites à Montréal à deux reprises dans les trois dernières semaines. Là. Donc, moi, je trouve que c'est... Et je comprends ce cri du cœur de sa part à elle, parce que, la situation... Et pas sous contrôle. En tout cas, elle est pas. Moi, je vois pas ça comme une situation sous contrôle. Ouais. Là. Mais la situation s'améliore à Montréal. Mais il va y avoir une deuxième vague. Il faut être capable de mieux la gérer que la première. Là.
Mais j'adhère à ton analyse, à la lecture de la situation. Le seul petit élément où j'accroche sur ces propos. L'élément qui peut créer un certain malaise, c'est que, et sais-tu quoi, je te donne le crédit, là, t'as été une des premières à soulever ce point-là il y a quelques semaines, puis par la suite, entre autres, le Parti québécois a renchéri là-dessus sur la proximité entre le pouvoir politique et la santé publique, la proximité entre le docteur Arruda et le premier ministre. Et, tu sais, dans ses propos, elle dit carrément, depuis le début, moi je l'avais dit au docteur Arruda, à Horatio, qu'elle nomme, que cette crise-là devrait être gérée de Montréal. Et il le sait très bien. Tu sais, dans le fond, elle dit il est d'accord, mais il s'est fait imposer par le politique de gérer ça de Québec. Donc, je trouve que ça vient appuyer cette thèse-là, qu'il y a peut-être une relation, tu sais, à la limite un peu malsaine entre le politique et la santé publique, qui elle-même aurait pu dire oui, effectivement, c'est vrai qu'on devrait être à Montréal.
Tu vois, moi, je vois pas le lien entre être à Montréal et la relation malsaine entre, en tout cas, la relation trop intime entre les deux. Je pense qu'en disant ça, elle essaie de protéger M. Arruda en faisant valoir que c'est pas de sa faute à lui si la décision a été prise de gérer ça de Québec. Et il y a un fait intéressant, c'est que certains diront qu'elle règle ses comptes, mais quand on lit le dossier au complet, tout le monde vient dire qu'elle a raison, là.
Oui.
Je veux dire, Alain Poirier, qui est l'ancien directeur national de la santé publique au Canada et qui est au Québec et qui est maintenant DSP de l'Esprit, dit que Montréal est impossible à gérer parce qu'elle n'a pas l'autorité sur les CIUSSS et que c'est complètement dysfonctionnel. Richard Massé, qui est le numéro 2 de la santé publique, dit que oui, la gouvernance est difficile à Montréal pour ces problèmes-là. David Levine, qui est l'ancien directeur de l'Agence de santé et de services sociaux de Montréal avant la réforme des CIUSSS, vient appuyer ce qu'elle dit. Donc, je veux dire, à un moment donné, est-ce que sous prétexte qu'on est en crise et en situation de pandémie, tout le monde se réserve d'émettre des questions. Moi, je vois Mme Drouin regarder ce qui se passe à Montréal et se dire, minute papillon, là, on se tape pas ça deux fois, là. C'est parce que, je veux dire, c'est quand même hallucinant, là. C'est une petite unité qui a l'habitude de faire 6 000 enquêtes par an, puis qui en a fait 25 000 en trois mois, là. Et la réalité, et personne veut jeter la c'est pas populaire de jeter une partie de la pierre à M. Arruda parce qu'il est devenu un héros national, là. Mais la réalité, c'est que on peut bien faire des profils en disant que le 9 mars au matin, il est arrivé dans le bureau du premier ministre avec un constat grave disant qu'il faudrait prendre des mesures musclées. Je m'excuse, quand ça se fait qu'il s'est réveillé le 9 mars au matin, là. Je veux dire, la réalité, c'est que la santé publique, c'est que lui, comme DSP, a plaidé auprès de la population tout le mois de fin janvier et tout le mois de février qu'il fallait qu'on se calme, qu'il n'y avait rien là, là.
Ben oui, la peur, ça faisait faire des affaires. La peur, ça faisait faire des affaires qui n'avaient pas de crise de bon sens.
Alors, c'est vrai que la peur, ça fait faire des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens, mais ça n'empêche pas que pendant ce temps-là, c'est pas normal qu'il n'y ait pas un plan de pandémie plus précis qui soit mis en place. Qu'on n'ait pas mieux coordonné la réponse des CHSLD, qu'on n'ait pas commandé le matériel qui manquait, etc. La réalité, c'est que la Colombie-Britannique puis l'Alberta ont pas le même profil, mais la Colombie-Britannique, je pense qu'on peut faire une comparaison. Ils ont un aéroport international de Vancouver qui accueille autant de vols internationaux que Montréal. Ils ont eu le même problème des frontières non fermées, etc. Et il n'y a personne qui va me faire croire que seulement la semaine de relâche qui fait la différence entre les deux portraits, là. Je veux dire, à un moment donné. Alors, oui, il y a des leçons à tirer de ça, et moi, je la trouve très courageuse de oser le dire pour forcer ce débat-là sur la place publique.
Ouais. Et je me souviens que dans l'entourage de François Legault, après leur premier passage à Montréal, il y a un des conseillers de M. Legault qui me disait à micro fermé qu'ils avaient tous été charmés, j'ai envie de dire, ou agréablement surpris par l'aplomb de la docteure Drouin, tu sais, de la côtoyer en personne. Ben justement, quelqu'un qui a de l'aplomb, c'est quelqu'un qui a pas peur de dire ce qu'il pense et qui veut s'assurer que les choses bougent. Emmanuel, il nous reste 3 minutes avant que je doive te laisser aller. Je veux qu'on aborde la question de la difficulté de prendre des décisions qui souvent vont paraître plutôt simples. Tu sais, augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires, fallait le faire, François Legault dit on aurait dû le faire avant, mais là, à partir du moment où vous faites ça, il y a comme une espèce d'effet domino, puis on s'en rend compte, les impacts sur le privé, les autres corps de métier qui demandent des exigences, des formations supplémentaires, qui vont dire, ben là, c'est pas normal qu'on ait le même salaire. Donc, tu sais, il y a un effet domino, une espèce de cascade qui est inévitable, et là, ça devient quand même un certain casse-tête sur le bureau de François Legault.
Mais oui, parce que de un, il y a seulement pour l'instant les préposés aux bénéficiaires qui vont bénéficier de cette importante augmentation de salaire seulement ceux dans les CHSLD. Alors, si tu es un préposé aux bénéficiaires qui a 20 ans d'expérience ou 10 ans d'expérience dans un hôpital et t'as fait 800 heures de cours, tu vas quand même être moins payé que quelqu'un qui a eu 300 heures de cours et qui va se pointer en CHSLD. Il y a une inéquité là-dedans. Et le problème des résidences privées est absolument réel. Le gouvernement évoquait hier qu'on pourrait regarder à donner une aide aux résidences privées. Il va falloir avoir une réflexion sévère là-dessus, là. Moi, je m'excuse, mais il y a des résidences privées. Bon, il y en a qui sont des OSBL, qui sont des petites résidences. C'est pas un univers uniforme, là. Mais il y en a quand même, là, celles qui nous viennent à l'esprit le plus facilement au Québec, là. Mm-hmm. Chartwell. C'est une société cotée en bourse, là. Je veux dire, c'est des propriétaires immobiliers. C'est une entreprise qui génère des profits. On va aller subventionner les profits d'une entreprise privée. Les résidences Soleil, elles appartiennent à un homme d'affaires.
Un richissime homme d'affaires, oui.
Alors là, sérieusement, on va aller subventionner les résidences Soleil pour garantir les marges de profit de son propriétaire. Je veux dire, il y a un très, très gros problème. Moi, j'ai vu par ailleurs, dans la réponse de M. Legault, une réflexion intéressante dans ce qu'il a dit hier sur ce sujet-là. Il dit, la réalité, c'est que les résidences pour aînés, au début, c'était pour les gens qui étaient autonomes.
Oui.
Et qu'avec le temps, ces gens-là ne voulant pas déménager, ça a forcé les résidences privées à engager de plus en plus d'aides-soignants, justement, pour prendre soin de leurs résidents. Est-ce que la solution, c'est pas qu'à partir d'un certain niveau de soins, tu sois obligé d'aller en CHSLD? Donc, on sépare le principe des soins autonomes, des soins lourds entre le privé et le public. Ça, c'est une partie de la réponse, par ailleurs. Mais ça, c'est une restructuration beaucoup plus large, je pense, des soins qu'on donne aux personnes âgées, je vais dire, qui ne va pas se régler en quelques semaines, là.
Absolument. Réflexion qui est pertinente et très intéressante. Emmanuel, je te laisse aller. Je te souhaite un excellent week-end et on se repart au début de la semaine.
C'est promis. Merci. Au revoir.
Salut.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Franchement dit.
Jonathan Trudeau.
Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1877-827-2346. Cube Radio. Cube Radio.
Très, très hâte de parler avec notre collègue Luc Laliberté parce que ça brasse aux États-Unis. Oui. Et souvent, lorsqu'on parle à Luc, on a un bon menu. Là. On a 3, 4, 5,
on en
6 éléments.
Pas.
Mais là, il y en a deux, mais c'est deux gros qui méritent... deux grosses problématiques qui méritent qu'on s'y attende. Comment ça va, Luc?
Oui, ça va bien. J'espère que vous allez bien aussi.
Yes.
Oui, ben ça va bien. Puis écoute, ça va mieux que les gens de Minneapolis. C'est assez incroyable ce qui se passe au Minnesota suite au... Genre, j'ai envie d'être politically incorrect et de dire suite au meurtre de George Floyd, ce citoyen noir qui était carrément étouffé par un policier, la situation qui est carrément en train de... Ben pas carrément, elle a carrément dégénéré. On voit les images, ouais. Luc. C'est l'apocalypse. Il y a des feux partout, le pillage. C'est pas beau ce qui se passe là en ce moment.
Écoute, on a droit à, et c'est toujours important d'être nuancé quand on couvre ça. C'est particulièrement spectaculaire et c'est regrettable, bien entendu. C'est condamnable ce qui se passe actuellement. Mais c'est une manifestation supplémentaire d'un problème qu'on tarde à confronter ou qu'on confronte mal. Les policiers, une fois de plus, puis dans ce cas-ci, il semble effectivement que les officiers se soient comportés là, de façon tout à fait honteuse, mais moi, je trouve qu'on remet de plus en plus une série de problèmes politiques, économiques et sociaux entre les mains des policiers. C'est-à-dire qu'on les envoie auprès de communautés noires. Dans certains cas, on les encadre du mieux possible. Il y a des formations qui sont accordées. Mais on les envoie patrouiller puis procéder à des arrestations dans des milieux qui sont aux prises avec une misère qu'on envisage peu ou pas ici, même s'il y en a au Québec et au Canada. Donc, les policiers sont comme la dernière ligne. Ils sont au front pour régler des problèmes qu'on devrait attaquer ailleurs. Et dans certains cas, ça semble être le cas au Minnesota, bien, il y a au travers de tout ça des dérapages importants et dans certains cas des pratiques racistes. Donc on verra. Hein, on a congédié 4 policiers déjà. Les images qui ont été filmées de cet officier qui porte un genou là, pendant 8 minutes de temps sur la nuque d'un individu qui est déjà menotté au sol, ça va à l'encontre des pratiques de la police de Minneapolis. Là, c'est très clair dans leur encadrement, dans leurs règles. On ne recourt à ça que si notre vie est en danger. Et ça semble pas être le cas. Maintenant, on n'a que cette vidéo-là, qui est affligeante, qui est incriminante, mais on a que celle-là. Donc, réservons-nous.
C'est ça, parce que là, exactement. Et je voulais absolument qu'on fasse cette nuance-là, ouais. Parce que
voilà.
Ça semble tellement évident sur cette vidéo-là, mais il y a eu des occasions là où les médias, on a dû s'amender, parce que c'est nous qui commentons ce qui est soumis sur la place publique. Tu sais, je pense, hein, je sais pas, Maud, tu te souviens, son nom, l'acteur américain là, qui avait dit qu'il avait été l'objet d'une attaque raciste. Jesse Smollett, voilà. Ouais. Et finalement, on avait appris que c'est lui qui avait orchestré tout ça. Donc, même si ça semble évident, faut faire attention. Mais dans ce cas-ci, dans le cas de George Floyd, de ce que tu as vu, est-ce qu'il y a des éléments qui tendent à soulever des questionnements? Parce que j'ai entendu parler de caméras de surveillance qui, elles aussi, démontreraient qu'il n'était pas nécessairement agité ou violent ou quoi que ce soit. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire, Luc?
Écoute, d'abord, l'homme en question, mais je reviendrai, là, je veux rattacher ça à ce qui m'apparaît être la situation d'ensemble la plus importante à déplorer, mais ce gars-là mesure 6 pieds 7, et c'est un sportif là, qui a obtenu des bourses, il performait au football, entre autres choses, donc c'est un colosse qui a déjà eu des problèmes avec la justice. Est-ce que le fait d'avoir des problèmes avec la justice dans un passé plus ou moins récent, ça justifie ce que le policier a fait? Bien sûr que non. Mais
André Boisclair a déjà eu des problèmes avec la justice, puis il n'y a pas personne qui a mis un genou dans le cou tantôt, là.
Non, voilà. Donc c'est. Mais quand on procède à l'arrestation dans un quartier difficile, là on voit dans ce cas-ci se manifester une question carrément de profilage. D'ailleurs, en passant, là, quand on parle de profilage, puis les gens se disent, ben est-ce qu'on exagère dans les médias. Ce matin, là, on a évacué 2 équipes de CNN qui étaient sur le terrain. Et il y a une différence remarquable entre la façon dont on s'est adressé à l'équipe qui était dirigée par un blanc et l'autre qui était dirigée par un hispanophone. Donc, même dans les interventions policières, pour contrôler l'accès des médias ou tenter de le contrôler, il y a un journaliste blanc, finalement, qu'on va laisser faire son travail alors que l'hispanophone est évacué, puis de façon plutôt cavalière.
Ben, ils ont été arrêtés carrément.
Il a fallu une intervention puis des excuses de la part du gouverneur de l'État pour dire, écoutez, on a commis une erreur dans ce dossier-là.
Luc, je t'interromps un instant, je t'invite à garder en tête ton propos, parce que je veux qu'on écoute, on a fait un petit montage audio de ce qui s'est passé aux petites heures du matin, alors que le journaliste de CNN a été arrêté live. Voilà. Si vous ne l'avez pas vu ou entendu, c'est un moment de télé absolument bizarre. Là. Personne n'a jamais vu rien de tel.
Non, c'est sûr.
Donc, on écoute ça, puis on revient dans quelques instants.
And so, we walked away. I'm sorry?
You're under arrest.
Okay. Do you mind telling me why I'm under arrest, sir?
Why am I under arrest, sir?
Officer's here with CNN and he's on the air right now.
Okay.
You are arresting him live on CNN. We told you before that we are with CNN.
Our CNN camera crew and our producer are being arrested right now on live television in handcuffs.
I've never seen anything like this.
Why, guys, what is...
Allison.
Why are you arresting us? We're just passing along the message, your message. I'm dumb, you know, we're just out here doing our job as well as you are.
We can do that.
Can you tell me what are...
Are you under arrest?
Okay.
Behind your back.
I'm being arrested now. Can I put the camera down?
Filmé. J'adhère à ton point, Luc, que la police est comme le dernier jalon là, qui se ramasse près des problèmes qui ne sont pas réglés. Mais comme mon collègue Mario Dumont le faisait valoir ce matin sur les ondes de Cube Radio, quand une police qui a déjà sa crédibilité qui est mise à mal, qui s'en va arrêter une équipe qui, clairement, on le voit, le segment complet dure 6 minutes, ils disent, ben OK, mais vous voulez qu'on déplace-nous où on peut aller? Puis pour seule réponse, ils se font arrêter. C'est rien pour aider la crédibilité d'un corps de police, là.
Voilà, et carrément, pour être... Hein, je disais, c'est toujours important de faire les nuances, mais la police à Minneapolis l'a échappé. On l'a échappé avec le noir en précédant son arrestation. Et clairement, on l'a échappé ce matin en gérant les médias. Puis regardons comment on gère aussi l'ensemble de la situation pour que ça dégénère autant. Assurément, il y a tout un examen à faire du service de police. Mais je répète, c'est qu'en même temps, oui, ils doivent être prêts, ça fait partie de leur responsabilité, mais on les place souvent dans des positions qui sont absolument impossibles. Et moi, je me souviens qu'un chef de police à Dallas qui avait dit exactement la même chose. Écoutez, il y avait eu un incident là, qui était dans les mêmes eaux autour, qui impliquait la question raciale. C'est un chef de police noir qui était là à l'époque. Puis grosso modo, ce qu'il dit, c'est « Vous me demandez de faire la job des politiciens, vous me demandez de faire la job d'un planificateur, d'un créateur d'emploi ou de celui qui gère les programmes sociaux. Malgré nos formations, nous ne sommes que des policiers. » Et ils sont formés, les policiers. C'est une question qu'on m'a posée il n'y a pas tellement longtemps, mais est-ce qu'ils sont formés? Bien sûr que oui. Et entre autres, pour les relations avec les minorités, la communauté noire en particulier. Donc, je disais, la problématique de la question raciale, elle est éminemment complexe. Elle a des ramifications. Ça fait 25 ans que j'enseigne l'histoire américaine. Et à chaque année, malheureusement, Jonathan, je commente, j'explique ou je fais l'historique de ça devant mes étudiants en leur disant, il y a une chose qui bouge pas assez, l'action, et pas juste celle des politiciens. Je répète, on dénonce la brutalité policière et elle existe. Mais est-ce qu'on cherche à endiguer les autres maux, les autres problèmes? Trop souvent, on balaie ça sur le tapis où ça demeure une promesse d'un élu, peu importe le niveau, que ce soit au niveau municipal, que ce soit au niveau fédéral. Et ça va rejoindre la campagne électorale, c'est certain. Par exemple, depuis hier, il y a un nom qui est à peu près disparu du radar pour ce qui est de la colistière de Joe Biden, et c'est Amy Klobuchar. Elle a été procureure, elle, dans une autre vie, avant de se lancer en politique, et elle était confrontée à des épisodes de brutalité raciale, et elle n'a jamais jugé bon, comme procureure, de poursuivre les gens. Donc, qu'elle ait eu raison ou tort dans ces dossiers-là, parce qu'il faudrait refaire l'historique, elle a refusé de bouger dans des incidents qui impliquaient des policiers blancs avec la communauté noire. Est-ce que Joe Biden veut aller chercher une femme du Midwest, à ce moment-ci, qui a été mêlée à ce dossier-là? Ouf. Moi, je pense qu'on vient d'éliminer le nom de Mme Klobuchar depuis hier, là, depuis deux jours. Je pense que Mme Klobuchar a baissé les bras puis qu'elle ne cherche plus à être nommée comme okay. Politicien.
Avançons un peu dans notre analyse, parce qu'on doit parler oui. absolument de la réaction du président américain. Le oui. but, c'est pas de s'acharner sur lui, mais dans une période aussi sensible que celle-là, alors que déjà en parallèle, il y a une pandémie, il y a des morts, les États-Unis ouais. qui franchissent le cap des 100 000 décès, on s'attendrait à ce qu'un homme d'État soit capable de dire, regardez, je vais agir en médiateur, on va essayer de calmer les gens. Or, ce que Donald Trump semble avoir fait dans les dernières heures, c'est carrément de jeter de l'huile sur le feu, là.
Écoute, j'ai un billet de blog qui est en ligne depuis quelques minutes et le titre est bien simple, c'est « Donald Trump, le troll en chef ». Il se comporte comme les pires individus. Tout le monde sait ce qu'est un troll, puis dans les médias, bon, on compose avec ça régulièrement, mm-hmm. peu importe dans quelle fonction on joue comme journaliste, commentateur, analyste, animateur. Les trolls sont là pour susciter de la controverse, pour provoquer, pour choquer, pour diviser. C'est exactement ce que fait le président. Et cette semaine, moi, je pense qu'il s'est lancé à l'attaque contre Twitter pour faire diversion, parce que, bien entendu, le bilan de son administration par rapport à la pandémie, il est très critiqué et il est loin de faire l'unanimité. Mais ce qui, au départ, était un test pour Twitter, hein, est-ce qu'on laisse le président mentir? Est-ce qu'on laisse le président accuser un animateur de télévision, Joe Scarborough, de meurtre, carrément?
Ben oui.
Donc, est-ce qu'on a le droit à la liberté d'expression? C'est à définir sur les réseaux sociaux. Puis, normalement, il y en a une définition et il y a des règles. Est-ce qu'elle s'applique au président? Toi et moi, on ne peut pas dire en onde ou quand on est sur les réseaux sociaux, on ne peut pas dire n'importe quoi. Donc, est-ce que ça s'applique au président américain? Et cette nuit, il en a rajouté une couche. Et cette fois-là, Twitter, qui avait longtemps tardé à agir, puis je pense avec raison, la liberté d'expression, c'est complexe à définir dans certains cas, mais là, ce qu'il a carrément dit, il a récupéré une phrase de 1967 du maire de Miami. Cette phrase-là avait initié des émeutes raciales. Il la récupère pour parler du Minnesota en disant, grosso modo, quand le pillage commence, nous, on ouvre le feu. C'est ce qu'il dit. Donc, c'est carrément une incitation à la violence. plutôt que d'avoir des propos, c'est difficile d'être rassembleur à ce moment-là, mais le président peut dire, écoutez, la situation est dégénérée, on offre l'appui des troupes fédérales, je serai en soutien au gouverneur puis au maire. En fait, il les a attaqués tous les deux, particulièrement le maire démocrate de la ville qu'il trouve être faible dans les circonstances. Mais plutôt que de dire, on va être là en soutien puis d'appeler au calme, il jette effectivement de l'huile sur le feu en appelant à la haine. Et moi, c'est là où je dis, le président se comporte comme le pire des trolls, et il y en a beaucoup de ces trolls qui l'ont appuyé. C'est toujours regrettable à dire, c'est pas tous ses partisans qui le sont, mais il y a des trolls, il a lui-même pigé un certain nombre de théories auprès de ses trolls, et il les relaie avec son compte Twitter et sur Facebook. Et moi, je pense qu'on a, depuis longtemps, dépassé les limites, et c'était le cas cette nuit.
Et là, il faut absolument souligner ce que Twitter a fait, parce que, bon, ce tweet-là a été publié à minuit 53. Non, Donald Trump faisait pas du drunk tweeting, il prend pas d'alcool, c'est su, c'est juste lui à son naturel. Et si on a tellement parlé du fait que Twitter avait étiqueté, épinglé un de ses tweets comme étant là susceptible de véhiculer des fausses nouvelles, ils ont étiqueté ce gazouillis-là, et c'est 10 fois plus lourd, là. Et je vais le traduire en français, là, pour nos auditeurs. L'étiquette dit « Ce tweet viole les règles de Twitter concernant la glorification de la violence. »
Voilà.
« Cependant, nous avons déterminé qu'il pouvait être d'intérêt public de le laisser accessible, mais on vous avertit que on n'est pas d'accord avec ça, dans le fond. » C'est le président des États-Unis, Twitter, dit « Ce tweet-là glorifie la violence. Ouais. » Wow!
Et écoute, est-ce que quelqu'un peut remettre ça en question? Honnêtement, là, il faut vraiment être un partisan de Donald Trump, mais totalement aveuglé par la partisanerie, pour nier la portée dangereuse de ce tweet-là. Donc, il y a bien sûr, et ça, c'est les électeurs qui vont se prononcer, au mois de novembre prochain, est-ce qu'on veut de cet individu-là comme président encore? Ben là, bien sûr, on laisse la démocratie parler. Il y a personne qui a dit que Donald Trump n'était pas un président légitime depuis 3 ans et demi. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Laissons les Américains décider. Moi, ce que j'ai hâte de voir maintenant, ben, c'est qu'il y a un système de justice et il y a de la réglementation sur les plateformes web, puis on les apostrophe souvent, les responsables du web, pour la désinformation, pour profiter d'un certain nombre de nouvelles faites par des journalistes, mais eux le font sans avoir à investir dans la recherche, etc. Il y a un certain nombre de controverses autour de ces géants-là, et Twitter se décide à bouger. Et j'ai pas pu faire autrement que de rire cette semaine quand Donald Trump a dit que les Twitter limitaient la liberté d'expression. Je me souviens pas d'un chef d'État qui a fait uniquement sa réputation sur Twitter, qui a été élu en bonne partie grâce à l'appui et à la diffusion de messages sur Twitter. Toi et moi, on aurait été bloqués bien avant les interventions que Twitter a fait. Pendant longtemps, puis c'est un peu ce qu'ils ont fait cette nuit. Ils ont dit, on l'étiquette, mais on laisse parce que c'est le président, puis que le compte Twitter du président, c'est un forum public. Ça avait été décidé, ça, par un tribunal, hein, c'était devant les tribunaux, ben on le laisse là, mais on fait quand même une mention. Donc, il a quand même un traitement de faveur, le président des États-Unis. Toi et moi, on aurait été bannis ou on aurait retiré le tweet, ou n'importe quel Américain, ça se déroule aux États-Unis. Donc, il y a quand même une forme de traitement de faveur dans ce cas-ci. Le président américain peut se permettre de faire ça.
OK. Rapidement, là, je veux qu'on parle du fameux décret qui a été adopté hier. Je dis rapidement parce que je nous ai gardé une cerise pour le Sunday, pour terminer ta chronique. Mais le fameux décret adopté hier, est-ce qu'il a une portée réelle? Est-ce que ça peut effectivement mettre en danger l'avenir de Twitter, ou c'est plus symbolique, si on avait le résumé, là?
Non, je ne pense pas qu'on mette en danger Twitter. Moi, je pense que c'est une nouvelle fois de plus une occasion, parce qu'au-delà de la réaction à chaud, là, puis parfois c'est très émotif, faut mettre ça en perspective puis voir finalement tout ce que le président Trump nous offre comme possibilité de réfléchir à la portée du pouvoir présidentiel. Le président américain ne peut pas dire Twitter, c'est fini demain. Il peut donner des consignes, puis le ministre de la Justice ou le procureur général peut intervenir, on peut faire des enquêtes, on peut, mais Twitter, là, vendez pas vos actions si vous en avez, là, ça va probablement être encore là. Mais on aura le droit à un beau bras de fer devant les tribunaux. Moi, je pense que c'était un geste d'éclat, comme le président aime souvent le faire, puis il s'est, comme d'autres avant lui, là, mais il a exploité au maximum ou étiré au maximum la définition des pouvoirs de l'exécutif, et c'est une nouvelle manifestation de ça. Donc, c'est très spectaculaire comme déclaration. Twitter continue ses activités. Je pense pas que M. Dorsey, le président de Twitter, s'il n'a pas dormi, c'était pour gérer le tweet, moins que la menace qui pèse sur son réseau. Donc, on verra le résultat de tout ça. Parce que moi, je rappelle souvent, il y aura éventuellement un autre président ou une autre présidente après Trump. Et ils devront vivre avec tout ce qu'on aura décidé au sujet de la présidence Trump, et il y en a combien de causes devant les tribunaux, il y en a encore d'ailleurs, hein, qui ne sont pas réglées, donc autour justement de l'exercice du pouvoir présidentiel puis de l'immunité présidentielle. Donc moi je reste au poste, ce que je veux voir c'est correct, il y a le phénomène Trump, on le commente, moi je veux savoir ce qui va rester de la présidence après puis des pouvoirs du président.
Dernier truc que je voulais qu'on aborde ensemble, je sais que c'est un peu la cerise sur le sundae, parce que, bon, on en parle de semaine en semaine, toi et moi, de voir quels seront les messages, les axes de communication des différents candidats, que ce soit Joe Biden ou Donald Trump. Mais sur la définition du candidat, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une différence entre comment on voulait présenter Donald Trump officiellement, essayer de le montrer, là, tu sais, vraiment un chef d'État, pis tout ça, mais que, bon, dans les faits, on le voyait en conférence de presse ou sur les médias sociaux, qu'il est ce qu'il est, il brasse la cage et tout ça. Et là, hier, on a vu apparaître sur Twitter, justement, une publicité vantant Donald Trump, vantant sa gestion de la crise, de la pandémie, ce qui est déjà quand même assez particulier avec 100 000 morts, mais pour la première fois, j'ai trouvé qu'on définissait vraiment Donald Trump pour ce qu'il était. C'est quelqu'un qui brasse, puis qui jette les conventions et tout ça, et je trouve que c'est très drôle à entendre. On va écouter donc l'audio de cette publicité qui a été mise en ligne hier.
A bull in a china shop, changing Washington. It takes a Donald Trump to demand truth from China. Shut down foreign travel. Get ventilators and tests now. Raise unemployment benefits. Cash relief to families. Washington's come to that. President Trump's not always polite. Mr. Nice Guy won't cut it. He does it his way, not the Washington way. But Donald Trump gets it done.
I'm Donald J. Trump, and I approve this message.
Je trouve ça vraiment intéressant. Wow. Il n'est pas toujours poli, c'est pas Mr. Nice Guy, mais il n'est pas Washington. J'avais l'impression que c'est la première fois qu'on table vraiment sur ces caractéristiques-là de Donald Trump pour le différencier, pour dire c'est lui que ça nous prend, là.
Et c'est la carte qu'il faut jouer. On l'assume. Donald Trump, lui, s'est présenté comme ça. Hein? Si on se rappelle là, de la descente de l'escalier roulant en 2015, quand il officialise sa candidature, c'est un peu ça. Moi, je défie les conventions. Puis regarde, par exemple, on sait, c'est parce que ça rejoint des gens dans toutes sortes de sphères. Là. Regarde en termes de sport. Hein? Des fois, on dit, ben oui, ce joueur-là, il est poli, il s'exprime bien, mais quand vient le temps de se mettre le nez devant le filet ou aller chercher le puck dans le coin, ben ça prend un tough. Et c'est un peu comme ça que Donald Trump se présente. Je jouerai pas, je gagnerai pas le Lady Bing cette année, moi, mais je vais aller dans le coin où je vais être devant le net, hein, dans le trafic. Donc, effectivement, Donald Trump, le Lady Bing, il ne le viserait pas. Donc, il n'est pas reconnu pour son esprit sportif, mais grosso modo, il dit, ben, regardez pas comment je le fais, mais je vais livrer la marchandise. Et je pense que c'est une façon habile de le vendre.
Absolument, absolument. Mais c'est très intéressant à voir ça, en plus avec les images, là, la réalisation qui est très... An American Hero, Donald Trump. Alors voilà, on va suivre ça en espérant que la situation se calme un peu là, du côté de Minneapolis. Et on fait le point ensemble en début de semaine. Je te souhaite un excellent week-end, Luc.
Un bon week-end à vous deux. Bye, Jonathan. Salut.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Ou votre emploi du soir? Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines.
Vous écoutez
Franchement dit.
Chronique disque dur avec Stéphane Plante. Salut Steph.
Salut Jonathan.
Alors, vendredi, d'habitude, on fait ça le jeudi, mais c'est Mélissa, ta collègue, qui t'a remplacé hier, mais on va faire des sorties de la semaine avec toi. On va commencer avec un groupe que je ne connais pas, de 1975.
Écoute, c'est peut-être l'album qui m'a le moins conquis cette semaine. C'est à la fois très brillant
et
très ambitieux. Ben, ça dure 1h20 en tout, cet album-là. Il y a 22 chansons. Et je me demandais, est-ce que ça aurait mérité deux albums de 40 minutes? Mais je pense plus qu'un album de 50 minutes aurait fait la job si on enlève ce qui dépasse un peu. Mais ça fait déjà depuis le mois d'août que le groupe lance des singles sans arrêt. Fait que j'ai l'impression qu'ils ne voulaient pas sortir l'album avec 7 singles et 4-5 pièces qu'on ne connaissait pas. Donc, il y a 22 chansons. C'est très généreux. On va écouter l'extrait « People ».
pas ça.
C'est bon. Ça, c'est une pièce, oui, c'est la pièce que j'ai préférée, mais on comprendra que le groupe, comme exercice de style, reprenne un style différent, justement, d'une pièce à l'autre. Écoute, il y a des ballades folk là-dedans, il y a des chansons pseudo-romantiques en duo. Je pourrais faire jouer 10 extraits de l'album. À chaque fois, je devrais dire, ah, ben, c'est pas représentatif de l'album, mais aucune pièce n'est représentative de l'album. Ça va dans le rock, l'électro, la pop, il y a de l'autotune, on n'y échappe pas. Comme si on avait voulu tirer dans toutes les directions. C'est certain, on peut difficilement reprocher à un groupe, un artiste, de vouloir varier les styles sur un album, mais en autant que ça préserve une certaine unité qui donne justement une personnalité à l'album. Et c'est là que peut-être 1975, c'est un peu de défaut, c'est assez brouillon, et ça part là sur des chapeaux de roue avec un discours de Greta Thunberg mis en musique. On va faire un gros coup d'éclat. Oui, tout à fait, elle prononce un discours. Okay. Mais il y a des
How dare you? How dare you?
Il y a des très bonnes chansons, là. T'sais, individuellement, t'écoutes ça, ça va, mais après 3-4 écoutes, je ne pourrais pas réciter, j'ai envie de skipper des pièces. Et quand je dis qu'on évoque des styles très précis, la prochaine pièce, vous allez voir, ça sonne un peu comme du Third Eye Blind Spin Doctors des années 90. Comme les hits radio là, des années post-grunge où les diffuseurs se réveillaient en retard avec des versions du Corée du Grand. Oui, écoutez ça, Me and You Together Song.
C'est, je vois vraiment le lien que tu fais là. Mais moi, c'est la musique que j'écoute encore aujourd'hui. Sincèrement, ça, ben, Spin Doctor, j'ai jamais été capable là, mais Third Eye Blind, j'écoute encore ça. C'est sûr que tu dis post grunge, mais c'est poli au maximum là. C'est shiny oui, pour jouer à radio.
Il y en a une à la radio récemment qui a été super populaire et qui était très pop. C'était Chocolate. Probablement que tu l'as déjà entendu, mais tu n'aurais jamais pensé en écoutant, je pense, les pièces que Stéphane nous a fait entendre. Ce groupe-là, c'est vrai. La référence ne serait pas venue partout.
Mais toi, j'ai regardé le clip de la pièce que je viens de faire jouer et c'est voulu, là, c'est assumé. C'est la même mise en scène, les couleurs des années 90, les petits, toute la direction d'acteurs dans la vidéo. Donc, je me suis dit, OK, je me suis peut-être fait avoir et c'est peut-être ça que le groupe voulait, un peu comme un album de We're All Yankovic là, qui reprend des parodies de plein de gens, donc d'une pièce à l'autre, on n'est jamais dans la même ambiance musicale, sauf que là, c'est des tunes originales. Donc, je dirais que dans l'ensemble, c'est plus ou moins réussi, là, mais comme je dis, 22 pièces, c'est long. Les prochains, Fouki et Coréas, on dirait qu'ils ont voulu me faire plaisir. L'album s'appelle Génie en herbe. Je sais qu'avec Fouki, l'herbe a une autre signification que le quiz télé, mais on reprend le fameux sketch de RBO qui parodiait Génie en herbe. Donc, un peu partout sur l'album, il y a des chansons qui commencent avec des extraits du fameux sketch que je connais par cœur, ce numéro.
C'est Jean Bosco?
Absolument. Mais voilà, un connaisseur. Des fois, j'étais quasiment déçu que la chanson parte parce que je continuais le sketch dans ma tête. Mais c'est quand même, c'est plutôt réussi. C'est, ça fait partie des albums dont je parlais récemment qui sont sortis sans être annoncés. De manière précipitée comme ça, on l'avait pas vu venir. Collaboration Fouki et Coréas. Donc, je veux dire, c'est devenu comme une façon de faire de la pub indirectement. Dire que, OK, ben voilà, un album qui sort sans que personne l'ait annoncé. On va écouter la pièce, tout ce qu'il faut.
J'ai mes black jeans sur le cheval blanc de Napoléon. J'ai des boxers en bambou. La douceur de Vendoux. Des groupies en région qui se font tatouer dans le cou. Des rappers has-been qui essayent encore d'être dans le coup. Qui veulent me vendre leur tape devant les galeries d'Anjou. J'ai deux ou trois blocs pour le cancan illégal. Quand je me fais toujours des conditions idéales. Comme ça doit te plus qu'il fournit le.
Est-ce que t'aimes?
Je mets la meute à Curry, c'est même pas la virale. J'ai un bac de recyclage, une poubelle puis un compte. On verra que j'ai choisi un extrait dans lequel on parle des rappers has-been qui veulent être encore dans le coup. Qui veulent me vendre leur tape en face des galeries d'Anjou. Pour moi, c'est c'est une pièce d'anthologie, c'est de la poésie, de la pure poésie. Je sais pas à quel rapper il fait allusion, parce que des rappers has-been au Québec, il y en a pas tant que ça. Il y a plus des rappers never was, je dirais. Il y a pas tant de... On n'a pas une grosse industrie, mais bon, je vais téléphoner mes contacts dans le rap. Ben
oui, on veut savoir, on veut savoir.
On veut savoir, mais c'est quand même gros là, pour les pop québécois, où on a, je dirais, en guillemets, un vieux routier comme Coréas, qui fait un album avec Fouki, mais on s'entend que c'est pas déstabilisant dans l'ensemble. C'est pas des artistes qui sont aux antipodes. Ils ont chacun leur style, chacun leur façon de rapper, mais le mariage est bon. Et puis, ce qui m'a étonné, contrairement à beaucoup d'albums de rap, il n'y a pas d'invité. Il n'y a pas les fameux featuring. C'est vraiment oui. tutoriel tout le long. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle association? C'est à vérifier, mais c'est assez prometteur. Ma préférée, par contre, là, je vous ai fait jouer mon extrait de poésie préféré, mais la chanson que j'ai préférée, c'est peut-être celle qui a le titre le moins sympathique, c'est chier. C'est une pièce qui relate à peu près tous les irritants du quotidien. Donc c'est très drôle, écoute, c'est chier.
Me dire qu'il faudrait j'articule, disloquer la clavicule, la nourriture d'arrêt au port, faire la file pour l'abreuvoir. Fini scrapé le lendemain, le bracelet de queue de Luc Langevin, dire félicitations à une fille enceinte.
Me faire dire le bracelet de Luc Langevin. Pourquoi il ramasse le Luc Langevin? Voyons donc, il y a tellement de.
Mais là, il ramasse pas Luc Langevin. Voyons, il fait juste. C'est juste qu'il y a tout le temps un bracelet de cuir.
Pis ça, ouais, bon. L'aime, moi, son bracelet de cuir, Luc Langevin.
Bon, on n'épargne rien dans la pièce, puis il faut prendre ça avec un grain de sel, on s'amuse.
Tu peux pas donner un free shot à Luc Langevin comme ça. Non.
Ben là,
non,
c'est comme les colliers de cocotiers, là, de je sais pas quoi, là, de noisetiers.
Marcel Leboeuf. Ben non, voyons, Luc Langevin, il dit pas que son bracelet,
ben non,
il
je
va
sais,
guérir.
Mais c'est comme un accessoire fort, comprends-tu?
Wow, je suis content d'avoir parti une polémique avec Pierre Secoria, c'est fou. Les derniers, on est ailleurs, c'est les mains sales qui. Cet album est peut-être ma révélation québécoise de 2020. C'est un album où, justement, on évite là, les pièges là, d'avoir un invité qui vient faire du rap en franglais sur un refrain. Non, l'album fêlure, des mains sales et authentique. C'est du vrai bon rock. Il n'y a pas d'autotune non plus là-dedans. On va écouter le premier extrait, Personne. Dans un
j'aime ça, Steph, j'aime ça.
C'est bon, ça. Mais ça, c'est le projet solo de Fred Jacques et qui a été dans The St. Catherine's Miracles et tout ça. L'album devait être lancé au Poudlard. Malheureusement, on ne sait plus ce qui est arrivé, ce qui arrive encore. Et c'est quand même assez ironique qu'un groupe s'appelle Les Mains Sales dans une ère où on doit se laver les mains 6 fois par jour. Mais bon, c'était un autre groupe que Fred Jacques avait en tête. Et d'ailleurs, je vous recommanderais mon article aujourd'hui sur Que Musique, où j'ai interviewé Fred Jacques. Et il est arrivé qu'il y a quand même un accident dans la vie de Fred Jacques avant l'album, un accident de voiture très grave. Et parfois, en filigrane, à travers les chansons, on parle un peu, il revient un peu là-dessus, côté de dépression, commotion et tout. Mais c'est jamais une forme de chantage pathétique, genre aimer mes chansons parce que j'ai vécu de quoi de grave. Oui, une charge émotive, mais c'est pas larmoyant parce que c'est soutenu par un rock justement qui permet de soutenir tout ça. C'est pas comment dire, c'est jamais pathétique là. C'est pas pour faire pitié. Non, okay. C'est parce que ça a donné des très bonnes chansons. Et c'est le fun de renouer avec un rock authentique comme ça, parce que il y en a beaucoup pour nous dire que le rock était meilleur avant, que le rock est mort. Et écoutez les mains sales, vous allez être convaincus du contraire. D'ailleurs, on va écouter une autre pièce en cavale.
J'ai l'impression qu'on réinvente pas rien, mais en même temps, c'est bon, c'est efficace.
Ah oui, c'est très efficace. Tu sais, il y a 10 chansons, 30 minutes, là, on est loin des 1h20 de 1925, mais c'est ça, ça se prend bien, ces 10 chansons-là. Et puis, ils travaillent là-dessus depuis quand même un bon moment. C'est pourquoi il n'a pas attendu de sortir l'album. Il est sorti tel que prévu, ben, ça devait être au coup de la fête. Sorti, je pense, une semaine après. Mais c'est ça, parce que tu fais des années de travail là-dessus, donc je voulais pas attendre quand on sait pas vraiment. C'est juste plat parce qu'il y avait un été de festival, il y avait des shows qui s'en venaient et tout, grosse rentrée à l'automne. Tout ça va être remis, mais on peut se consoler en écoutant Fêlure, excellent album des Mains Sales.
Excellent, donc Fêlure des Mains Sales, on a également parlé de l'album Génie en herbe de Fouki et Corias, et Notes, on est Conditional Form de The 1975. Tout ça et bien plus disponible sur Cube Musique. Je te souhaite un excellent week-end, on se reparle la semaine prochaine, Stéphane.
Bon week-end.
Salut.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple, plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est Franchement dit.
Cube Radio.
Hier, Maud, on a parlé, et avec raison, avec justesse, de la situation difficile de plusieurs restaurateurs qui ont hâte au déconfinement, qui ont hâte de pouvoir reprendre les affaires. Et je trouvais ça important aussi d'illustrer le fait que tous ne sont pas dans la même situation. Et je suis pas en train de porter un jugement sur ceux qui l'ont plus dur que ceux qui l'ont plus facile. Oui, il y en a qui sont très, très, très débrouillants, qui sont innovateurs, mais qui ont des conditions de travail qui font en sorte que, sais-tu quoi? Ils ont réussi à bien s'en sortir malgré cette période absolument exceptionnelle du jamais vu. Et j'avais parlé il y a quelques semaines de ça, je pense que c'est dans la transition entre l'émission à Richard Martineau et moi, d'un petit restaurant qui s'appelle La Cuisine du Marché. C'est à Lévis, plus précisément, dans le secteur Saint-Nicolas, juste quasiment en dessous du pont de Québec, pour te situer. Et eux autres, leur spécialité, c'est le bœuf Wagyu. Et c'est tellement bon, là.
Ah,
et
ben depuis non, c'est-tu le... Ah non, c'est pas l'affaire que... Tu sais, on parlait des mets là, qu'on voudrait recréer à la maison tellement genre, on capote là-dessus.
Non, c'était pas celle-là, mais c'est le même. C'est effectivement le même type. Et depuis le début de la pandémie, je bénéficie de leurs excellents services en take-out parce que c'est tellement bon. Ça favorise l'achat local. Bref, je voulais en parler avec la gang de la cuisine du marché. Puis c'est ce qu'on va faire avec Caroline Lechasseur, qui est copropriétaire avec son amoureux, le chef Hugo Meunier, qui est également directrice des opérations de la cuisine du marché. Salut, Caroline.
Salut.
Vous vous décrivez comme un restaurant de cuisine artisanale tendance carnivore. Moi, je vous connais, mais pour les gens qui ne connaissent pas encore votre produit, comment vous vous décrivez plus précisément?
Ben, tendance carnivore parce que notre menu est pas mal constitué uniquement de viande, plus précisément du bœuf Wagyu, puis cuisine artisanale parce que tout est fait ici sur place, là, du début à la fin. Là, fait que toutes les vinaigrettes, les sauces, même Hugo, il fait beaucoup... c'est lui-même qui fait ses portions de viande, tout. Fait que tout est vraiment cuisiné ici sur place.
Puis c'est très, je comprends que la salle à manger, elle est pas ouverte pour l'instant, mais c'est très convivial, c'est chaleureux. Ouais. Vous avez quoi, une trentaine de places? Vous restez au-dessus, dans une ancienne maison. En fait, c'est votre maison. Ouais. C'est tout simple là, comme environnement.
Oui, nous, on a 28 places. C'est souvent, les gens vont penser que c'est plus difficile quand tu es un petit restaurant, mais je pense que dans la situation... de la restauration au Québec, je pense que c'est plus facile quand tu es un petit restaurant parce que tu es quasiment assuré d'être pratiquement toujours plein. Puis ça crée aussi une proximité avec tes clients, fait que tu les connais bien. Puis là, avec qu'est-ce qui se passe, ben on le voit, là, tu sais, nos clients sont fidèles, ils veulent qu'on reste ouvert, ils vont tout faire pour nous encourager, fait que c'est une belle formule, disons.
OK, dis-moi, Caroline, si on recule là, à peu près 2 mois en arrière, là, lorsque la pandémie arrive et là, à un moment donné, on annonce la fermeture des salles à manger, ça a été quoi votre réaction à Hugo et à toi? Est-ce qu'il y a eu comme une période là, où il a fallu absorber ça? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on maintient les activités ou rapidement, vous avez dit non, nous autres, on va s'ajuster?
Bien, nous, quand c'est arrivé, je me rappelle, c'était le 19 mars, là, il avait demandé de fermer les salles à 50%. Fait que là, on avait fait 2 jours comme ça. Puis après ça, ben tous les gens ont cancellé leurs réservations qu'il y avait pour la fin de semaine. Parce que là, c'était dans le début. Là, il y avait comme plus une peur qui s'était installée. Fait que tout était annulé. Fait que nous, on faisait déjà formule à emporter. T'sais, c'était simple. On faisait les tartares, les pokéballs à emporter. Puis là, tout de suite, on s'est dit, bon, ben on va élargir notre menu. Fait que tout de suite, dans la fin de semaine, on a pris ça d'assaut. On a élargi le menu. Puis là, ben j'ai commencé sur Facebook à tous les jours publier mon menu, à parler à mes clients, à essayer de les garder toujours en alerte à chaque jour. Puis comme les gens étaient à la maison, ben, on avait des réponses rapides, là, tu sais, ça fonctionnait beaucoup, là, le Facebook, là, fait que... Non, on n'a pas fermé, fait que je pense que c'était un peu ça, l'idée aussi, là. Je pense qu'il fallait embarquer tout de suite dans ça, là, quand on pouvait le faire, là, à l'emporter tout de suite. Parce que, tu sais, il y en a qui ont embarqué peut-être un mois ou deux après... Puis les gens avaient déjà pris des habitudes, des endroits où ils allaient. Il y en a qui n'ont pas eu le choix, là. Je sais qu'il y en a qui n'avaient pas le personnel pour rester ouvert, mais je pense que d'embarquer tout de suite, qui était le mieux à faire, si tu pouvais le faire, là. Je pense que ça nous a aidé, ça.
Dis-moi, Caroline, on a entendu beaucoup de restaurateurs dire bon, on a fait une formule take-out, mais on s'entend que la rentabilité, elle n'est pas là. C'est juste pour rester à flot, de ne pas être obligé, par exemple, de mettre à pied temporairement nos employés. Mais de votre côté, corrige-moi si je me trompe, mais vous avez réussi à maintenir une rentabilité équivalente à ce que vous faisiez avant, mais juste en y arrivant autrement, dans le fond.
Ouais, ben c'est sûr que nous, comme tu dis, on a 28 places. Fait que c'est sûr que moi, il fallait au moins que je triple là, le soir, faut que je vende au moins 150 repas. Mais là, j'ai comme plus de limites. D'habitude, je suis limitée avec mes places, mais là, j'ai plus de limites. C'est sûr que le restaurant qui a 300 places, ça devient un tour de force peut-être de vendre 600 repas take-out. Là, lui, il a besoin d'une grande rentabilité. Là. T'sais, moi, j'ai réussi sincèrement à garder le même chiffre d'affaires. Pour l'instant, là, en tout cas, si, pour l'instant, ça va bien. On espère que ça va rester comme ça dans le temps, parce que c'est sûr que quand ils vont déconfiner, là, ça va être à 50 %. Fait qu'il va falloir que le emporté demeure. On n'aura pas le choix, là.
Mais c'est ça. Comment vous l'envisagez, Hugo et toi, ce déconfinement-là?
Moi,
parce que c'est pas évident qu'on a une petite salle, là.
Ouais. Ben, moi, c'est sûr qu'à 50 %, là, on entend beaucoup parler que ce serait peut-être juste les terrasses. Fait que c'est sûr que moi, ma terrasse, pas si grande que ça non plus, là. Fait que, tu sais, je pourrais peut-être faire deux services de 10 personnes qui fait 20, ce qui est pas mal moins que d'habitude, je fais deux services complets. Mais c'est certain que je prévois garder mon à emporter, mais tu sais, c'est sûr que les gens, quand ils vont avoir des confinements des restaurants, ils vont avoir envie d'y aller. Fait qu'il va falloir que le à emporter continue, mais par contre, j'ai remarqué que moi, j'avais des clients que je voyais une fois ou deux par année, tu sais, qui sont pas des consommateurs nécessairement d'aller au restaurant, sauf parce qu'ils ont des jeunes enfants ou pour toute autre raison, là. Fait que eux, je les vois toutes les semaines. Fait que eux, ils veulent que je la garde, ma formule. Fait que, tu sais, je suis comme allée me rechercher une autre clientèle que j'avais moins. Fait que ça, c'est ce qui me fait penser que je vais pouvoir garder le emporté, que j'aurais pas le choix de toute façon, comme
absolument,
tout le monde.
Absolument. Puis moi, je m'inscris dans cette catégorie-là parce que je consommais vos produits, parce qu'on s'est déjà rencontrés dans des événements, mais vous aviez un food truck, notamment, je pense, au festival et tout ça. Mm-hmm. Donc, moi, c'est dans ces occasions-là, je consommais votre produit, mais là, j'ai envie de me déplacer à chaque semaine, d'aller en chercher, puis effectivement, que je vais souhaiter que ça continue. Dis-moi, je viens de mentionner le food truck, c'était un truc qui était quand même assez intéressant, j'imagine, pour vous. Mais avec l'annulation des grands événements et tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui est encore possible dans votre cas?
C'est un petit peu plus compliqué pour le camion.
Ouais.
Parce que là, c'est sûr que tous les événements ont été annulés. Tout ce qu'il y avait, tu sais, on avait une grosse été devant nous, on avait beaucoup d'événements, on avait beaucoup de corporatifs. Là, pour l'instant, ben tout est un peu annulé. Là, on prévoyait peut-être le mettre ici dans le cours, parce que nous, il y a un gros projet domiciliaire en avant de notre établissement. Fait que on pensait peut-être le mettre là, mais je pense qu'il y a des restrictions. On peut pas être dans un endroit à Lévis plus que 15 jours consécutifs. Fait que là, ça limite un peu. Fait qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer avec les camions.
OK. Et juste un mot avant qu'on se laisse sur l'utilisation du bœuf Wagyu, qui est le meilleur bœuf qu'il n'y a pas, là, avec le Kobe Beef aussi. C'est quand même un pari risqué de dire, nous, on va se concentrer sur l'utilisation du bœuf Wagyu, qui n'est pas connu de toutes les personnes, de trouver une façon originale de l'utiliser. C'est quand même un risque important que vous avez pris?
Ben nous, en fait, là, on a commencé à faire affaire avec Wagyu Québec, ça fait peut-être 7 ans, je pense. Tu sais, le restaurant allait quand même bien quand on l'a acheté, mais je vais t'avouer que c'est quand qu'on a introduit le bœuf que ça a décollé. Tu sais, au début, Hugo en avait acheté un demi-bœuf, il avait tout vendu ses pièces d'avance à des clients qu'on connaissait pour être certain, parce que c'était quand même un investissement là, au début. Donc, ben, quand tu commences. Mais là, par la suite, ben là, c'est ça, il a développé vraiment, tu sais, on l'utilise à plein de formes, tu sais, fait, là, comme là, sur notre menu, on a une salade de tataki qui fait avec des contrefilets, on va faire des tacos, fait que ça, on l'utilise à plein de choses, fait que ça permet aux gens d'y goûter sur plein de déclinaisons, là, pas nécessairement de payer un steak toujours à 75 $, tu sais, qu'on l'utilise beaucoup, mais on fait quand même aussi du poisson, le tartare au saumon, souvent, quand on est ouvert, on a un poisson à l'ardoise, fait que ça, on fait quand même autre chose. Mais le fait que le bœuf Wagyu Québec, on est un des seuls à le vendre à Québec, ben je pense que ça nous crée comme un effet de rareté qui fait que c'est un pari peut-être un peu risqué au départ, mais maintenant ça fait que les gens se déplacent pour venir manger ça. Fait que tu sais des fois on trouve que à chaque place on a tout un peu la même chose, fait que nous on se démarque avec ça. Puis le fait que tout est cuisiné ici, ben ça démarque encore plus. Là.
Tu sais, moi, ce que j'aime, tu le sais, là, c'est qu'en plus, les gens peuvent faire d'une pierre deux coups parce que vous vendez des pièces de viande qui sont pas cuites, qu'on peut acheter sous vide. Fait que moi, j'y vais chercher mon repas préparé pour le soir, mais j'achète sous vide aussi ce que je vais probablement manger la veille sur le barbecue avec du bœuf Wagyu. Bref, ça vaut la peine. J'invite les gens à aller visiter votre page Facebook parce que, d'un, le menu est là, les coordonnées pour réserver, parce que dans la situation particulière qu'on connaît, faut appeler avant, faut réserver, mais vraiment, j'invite les gens à aller voir. Donc, Cuisine du marché sur Facebook, tout simplement. Ben, félicitations à toi puis Hugo, puis on se voit bientôt, Caroline.
Hey, merci beaucoup. Bonne journée.
Salut, bonne journée.
Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1877 827 2346.
Oh, que je suis content de parler à notre prochaine invitée, parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était au début là de la pandémie. Elle est venue en studio à Québec, dans notre studio de la colline parlementaire. Hey, depuis ce temps-là, on se parle, on s'échange souvent, mais on n'a pas eu l'occasion de se parler en ondes. Et je trouvais que la controverse Maxi est une belle occasion d'échanger avec notre collègue Geneviève Peterson, qui est en studio avec toi à Montréal. Salut Geneviève!
Salut à vous deux!
Comment ça va?
Écoute, ça va très bien. C'est drôle que tu fasses allusion à la fois où je suis venue animer dans les studios de Québec, parce que cette fois-là, je sais pas si tu t'en rappelles, je t'avais écrit après parce que j'étais malade. Oui, puis là, la panique s'était légèrement emparée de nous. On avait le goût de désinfecter nos espaces de travail communs très, très beaucoup. Là. Mais rassurez-vous, je n'ai pas eu la COVID-19. À ce jour, je touche du bois. La table en studio est en 6000 bois, ça devrait faire l'affaire.
Et c'était drôle parce que non seulement tu avais utilisé notre studio, mais en attendant ton émission, tu avais utilisé mon bureau dans la salle des souillé nouvelles.
Tous tes espaces de travail, Jonathan.
Et là, déjà que mes collègues à l'Assemblée nationale ne trippaient pas que j'avais une blonde médecin et que je revenais de voyage en plus. Ouais. Écoute, en cachette, là, j'ai tout désinfecté mon bureau. Je me suis dit, faut pas que je leur dise que Geneviève a un petit rhume et qu'elle a peur que les gens soupçonnent que, parce que toi, je pense pas que tu pensais que tu l'avais.
Mais non, mais bref. C'est-tu dans le temps que tu revenais de Berlin?
Exactement. Moi, c'est
en
ça.
Plus,
ça.
Oui. Qui ajoutait à la chose.
Ça ajoutait un peu à la chose, sauf que moi, je fais de l'asthme dans la vie. Donc, dès que je suis malade, je tousse comme une damnée, comprends-tu? Donc, autrement dit, je tousse de novembre à juin, nonobstant la COVID. Donc, les gens, en ce moment, je me tape des regards haineux dans l'épicerie parce que je suis allergique au pollen, puis je tousse. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça.
Exact. On a la même réalité. Écoute, je veux qu'on parle de la controverse de Maxi ensemble. Je l'ai dit tantôt dans la transition entre l'émission Richard puis la mienne, que je trouve ça le fun qu'on soit des animateurs qui n'avons pas tous la même opinion, puis on est capable de jaser, on est capable de débattre de nos idées de façon tout à fait respectueuse. Je vais te lancer de la façon suivante. L'annonce de Maxi, chère Geneviève, en quoi elle est grossophobe?
Bien, c'est une vaste question. Il y a beaucoup de choses à dire avant de se demander si cette annonce-là, elle est oui ou non grossophobe et en quoi elle est. La première, c'est que c'est facile de dire « Ah, on peut plus rien dire, c'est de l'humour, vous avez pas de sens de l'humour. » Ça, c'est la première chose. C'est ma position de départ, la position facile de dire « Bien, écoute, là, c'est drôle, là, on a tous engraissé durant la COVID-19, c'est ça la joke. » Maintenant qu'on a dit ça, pour avoir parlé souvent de grossophobie à mon émission avec des personnes qui sont grosses, je le vois en quoi ça peut être excessivement blessant pour certaines personnes de regarder une publicité comme ça, pour plein de raisons. Mais avant, j'ai envie de dire, j'étais un peu mal à l'aise que ça soit moi qui parle de ce sujet-là. C'est sûr, j'ai une tribune, là, j'en ai profité pour essayer un peu de faire de la sensibilisation, mais je trouverais ça le fun que dans ce genre de débat-là, on donne la parole à des personnes grosses qui le vivent, parce que moi, j'ai beau essayer de me mettre dans la peau d'une grosse personne, c'est impossible. J'en vis pas de discrimination parce que...
Je me suis dit la même affaire, Geneviève, un matin. Je faisais la réflexion quand Joe m'a demandé « C'est quoi ton opinion là-dessus? » J'étais comme... On dirait que je me sens, puis excusez-moi le mot, mais fucking pas bien placé pour en parler parce que je comprends pas c'est quoi se faire stigmatiser puis se faire rire de soi parce que c'est ça qui arrive bien souvent à cause de son poids parce que moi, ça a l'air que je corresponds aux 10 standards de beauté, puis je suis mince, puis je suis née de même, fait qu'on dirait que je comprends
pas. Mais les filles, rassurez-vous parce que moi, tu vois, je suis overweight là. Je fais pas une obèse morbide, mais je suis overweight, puis c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'en débattre, parce que moi, je serais capable de vous amener des arguments à l'effet que je trouve ça particulier qu'un gars, c'est drôle de dire qu'il est gros, mais qu'une fille, il faudrait pas lui dire. T'sais, moi, quand je me fais faire des jokes sur le fait que j'ai engraissé dans les dernières années, je trouve pas ça le fun, mais malgré ça, la pub de Maxi, celle-là prise à part, je suis pas capable de... Bon. J'ai de la misère à voir en quoi il y a du shaming, là, puis je m'excuse de l'anglicisme, là, je sais pas c'est quoi le bon mot en français, mais je partage tout à fait ce que tu dis, puis je comprends les intervenants que tu as pu interviewer dans les dernières années, quand on parle du jugement, de la critique, du sentiment de honte qu'on tente d'inculquer dans ces gens-là.
Mais même de la non-égalité des chances. Oui, mais attends, c'est ça. Non, c'est pas ça, sauf que ça entretient. Rire des gros, c'est un peu la dernière forme de discrimination socialement acceptable parce que on nous bombarde d'un discours sur la bonne alimentation, le poids santé, l'équilibre. Puis c'est comme de dire que les grosses personnes, en fait, si elles sont grosses, c'est de leur faute. Et de faire un lien direct entre l'obésité et d'ingérer de la nourriture, de la façon dont c'est présenté dans la publicité. Je suis désolée, mais oui, c'est grossophobe. Et on a juste un peu circulé sur Internet pour voir à quel point les gens... Et moi, la première, là, on vit dans une société grossophobe. On s'est fait bourrer le crâne avec ça. Et on pourrait, au lieu de se dire c'est pas grossophobe, faire un petit exercice d'introspection. Demande-toi, Jonathan, sérieusement, si la publicité t'aurait fait autant rire si le personnage avait été mince. Si la réponse est non, ben c'est que toi aussi, tu as des préjugés à l'égard du poids, c'est-à-dire le préjugé selon lequel les personnes grosses, c'est des personnes qui mangent trop. C'est pas grave, là. C'est pas la fin du monde, mais je trouve que la première étape, c'est s'en rendre compte de ça, de l'adresser pour utiliser du très bon français. Puis c'est difficile de pas être grossophobe dans une société qui renforce sans arrêt tous les stéréotypes. Et je veux juste te dire, là, puis j'en parle à mes amies qui sont grosses. Hier, avant d'écrire ma chronique, j'ai écrit à une couple de filles qui sont des militantes, qui sont grosses, pour un peu sonder le terrain. Puis moi, je vais être super honnête, puis ça me dérange pas de le dire en ondes, là, j'en ai des troubles alimentaires. Mon pire cauchemar, c'est de devenir grosse. OK? Si tu me dis demain, Geneviève, tu vas prendre 30 livres, je pleure, je veux rien savoir. C'est grossophobe. Tu sais, je le suis, grossophobe, mais je trouve ça important qu'on se questionne sur cette pub-là. Puis moi, je vais aller plus loin que ça. Tu sais, à l'époque où est-ce qu'on est en ce moment, je ne vois pas comment des gens dans une agence de pub ont pu s'asseoir, que ce soit grossophobe ou pas, là. On n'est même pas là, là. Et se dire que c'était une bonne idée. Et se dire que ça allait pas faire une tempête. C'était évident que ça allait mal passer. Donc ça, je me l'explique très mal.
Mais depuis le début de la pandémie, on l'entend partout. C'est pas comme si cette pub-là était venue illustrer quelque chose que personne n'avait évoqué. Tu sais, je le disais un peu plus tôt, même Mario Dumont et Benoît Dutrisac ont fait des blagues sur le fait que ces chemises sur mesure, que d'habitude, ils ont déjà ces mensurations, puis il y a juste à en recommander sur Internet, que là, ils n'osaient pas en commander parce que ça va lui péter sur le dos puis il sera pas confortable. Il y a eu des caricatures. C'est quelque chose qui était beaucoup évoqué depuis le début de la pandémie, là, les ceintures qui pètent.
J'ai envie de te dire que j'ai reçu des nutritionnistes à mon émission qui vont dire que tout ce discours-là, malheureusement, contribue à la grossophobie. Moi aussi, j'ai engraissé depuis le début de la pandémie, là, puis j'aime pas ça, puis ça me gosse, mais je fais pas une campagne de pub. Je peux en parler en privé à mes amis, je peux le dire, sauf de là à faire une campagne de pub. Moi, je trouve qu'il faut faire attention au genre de message qu'on envoie quand on est une marque, et ça m'étonne fortement qu'il y ait des marques québécoises comme Quatcook, par exemple, Saint-Hubert, qui aient voulu s'associer à l'obésité. Puis quand je dis ça, il faut faire attention là, au message que je vais envoyer, c'est-à-dire que, étant donné que l'obésité une connotation négative dans notre société. Ça me surprend même qu'à la base, des marques ont voulu s'associer à ça. Donc, moi, cette pub-là, je la trouve problématique pour toutes ces raisons-là. Puis parce qu'on continue à véhiculer le préjugé selon lequel, et je vais le répéter, les gros, c'est de leur faute. C'est des personnes qui sont pas en santé, qui prennent pas soin d'eux, qui mangent comme des porcs, qui sont à l'abandon. Et ça, c'est pas...
Mais là, tu vas me dire... Ça dit pas ça.
Ben moi, c'est ça. Qu'est-ce que ça dit, Jonathan?
Ça dit une évidence. Et la preuve, puis c'est ça, si j'étais bien démagogique, j'aurais quasiment envie de dire que les gens qui disent que c'est grossophobe, c'est quasiment comme si eux-mêmes étaient grossophobes parce qu'ils disent qu'il faudrait pas le dire, que de manger beaucoup, plus que d'habitude, un des risques, c'est peut-être que tu prennes quelques livres. Alors que tout le monde le dit, c'est une évidence. T'sais, toi-même, tu l'as dit, ben oui, on a tous un petit peu engraissé, c'est une évidence.
Mais
et
le
là,
problème...
tu prends, pour faire de l'humour, la publicité, tu prends un trait, tu le grossis un peu, excuse-moi d'utiliser le terme grossir, là, mais tu l'amplifies un peu. et c'est ça la publicité, c'est ça de l'humour. Et
je
trouve qu'il n'y a pas personne, tu sais, dans la publicité, il dit pas mon gros Christy de cochon, tu manges comme un porc, puis c'est pour ça que t'es gros.
Ben c'est ça quand même. Le message, c'est quand même si tu manges trop, tu vas être gros, puis être gros, c'est négatif. On s'entend, là. Être gros, c'est négatif. Socialement, là, il n'y a personne...
Est-ce qu'on a encore le droit de dire que, par exemple, l'obésité morbide, c'est quelque chose qui peut engendrer des problèmes de santé?
Bien sûr!
Il y a une entre favoriser l'acceptation de soi. Écoute ça, j'en suis totalement. Revoir nos standards de beauté, j'en suis totalement. Mais de dire, par exemple, que c'est de la grossophobie, d'évoquer le fait que, ben, il y a des problèmes, par exemple, cardiaques, de pression artérielle, etc.
Non, je dis pas c'est... ça. Puis, en même temps, ton affaire de revoir les standards de beauté, là, moi je suis même pas là-dedans, là, j'ai pas peur de dire que les corps gros je trouve pas ça beau. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est parce que je suis conditionnée de même. On vit dans une société qui est comme ça. J'aimerais ça pas être comme ça. Ouais. Je fais beaucoup de travail pour pas être comme ça, mais je doute que je vais y parvenir un jour. Mais par rapport à la question des problèmes de santé, oui, l'obésité, c'est un facteur qui contribue à avoir des facteurs de risque, mais ce n'est pas le seul facteur. Et moi, c'est contre ça que j'en ai. C'est de tout le temps faire l'association poids-alimentation. Être gros, c'est un choix. Parce que t'es gros, c'est de ta faute. Parce qu'il y a toutes sortes d'autres facteurs qui influencent ça. Par exemple, la génétique, le fait qu'on ait fait, oui, ou non, des régimes. Tu sais, il y en a plein de facteurs qui influencent. Donc, ça contribue à alimenter les préjugés alors qu'on est dans une discussion sociale depuis quelques années. Et je trouve que c'est une bonne chose. On se questionne sur la façon dont on parle. Puis, tu sais, là, on parle des gros, mais est-ce que tu me dis tantôt, moi, je trouve ça poche qu'à moi, on puisse dire « Hey, Joe, t'engraissais un peu alors que les filles, il faut pas leur dire ça. » Moi, ça fait souvent, là, on en a parlé souvent, toi puis moi, ensemble, mm-hmm. Jonathan, on devrait arrêter de commenter le corps des autres. Ça va faire. Tu sais, c'est assez. Puis ça, cet écœurantite-là, selon moi, a beaucoup contribué à la mauvaise réaction par rapport à cette pub de Maxi. Et on aurait pu faire une pub vraiment là autrement, mais on a choisi de rire d'une personne grosse. Si le personnage n'était pas devenu obèse, il n'y avait pas de concept. Donc, moi, c'est ça que je questionne. C'est pas drôle, rire des gros. C'est pas drôle.
J'ai une question pour vous deux. Le fait qu'on ait vraiment grossi Martin Matt, que ce soit pas le vrai Martin Matt, qu'on ait vraiment...
Ça, c'est encore pire. Le costume, c'est ça qui a insulté le monde encore plus.
Ça. Est-ce
le
que c'est ça qui est plus insultant? Ouais. Je vous pose la question. Est-ce que ça aurait pas été moins insultant si Martin Matt s'était juste présenté en étant comme...
Un petit bod.
Martin Matt avec son petit... je sais pas si c'est une petite bedaine, j'en ai aucune sainte idée, puis je m'en
sac
dans l'an 40. Mais ça aurait-tu moins choqué qu'ils disent hey, « Moi, là, avec mes petites tomates, j'ai 30 dans Quaticook, bloubli, bloubla, avec des affaires qui se peuvent même pas.
Ouais, »
Est-ce que ça aurait mieux pensé?
Je pense que oui, parce que ce qui a choqué les gens aussi, ce que j'ai lu beaucoup, les commentaires sur des groupes et tout ça, c'est le fait que ça soit vraiment de la grosse obésité, puis justement que ça soit un déguisement, un gros fatso. T'sais, les gens ont été très, très insultés. C'est comme si ça ajoutait l'insulte à l'injure. Donc, vraiment, je pense que oui, je pense que la question
c'est
est
drôle,
très bonne.
Moi, je trouve
que
ta question est vraiment intéressante, mais moi, je trouve que ça venait comme justement caricaturer la chose. Encore
ouais, mais
plus,
tu trouves pas que ça fait comme j'ai mangé comme un porc, j'ai perdu le contrôle, donc je suis devenu un gros obèse.
Attends, OK, je te le présente autrement. Si ça avait été Martin Matt, mais qui a pas vraiment graissé, qui est présenté autrement, là, est-ce qu'on des gens auraient dit que c'était bien épouvantable de dire que ça, c'était gros, tu sais? C'est ça. Ça, c'était gros. Fait que les autres qui sont un peu plus gros que ça, c'est quoi? C'est des gros porcs?
Vraiment,
je pense que c'était damn if you do, damn if you don't.
Non, je pense que ça aurait été vraiment une bonne idée de choisir un autre concept. Tu sais, comme, mettons...
Je sais pas. Écoute, moi, je trouve qu'on a l'épiderme sensible.
Puis, sais-tu ce que je trouve dommage, Jonathan? C'est que Maxi, là... Et moi, je veux juste dire, là, j'adore Martin Matt. Je trouve que c'est un gars brillant.
Ben oui,
je trouve que c'est
aussi
un gars intelligent. Je trouve qu'il a une écriture exceptionnelle. Vraiment. Et cette campagne qu'il fait avec Maxi depuis le début, je la trouve brillante. Et par ailleurs, et ça, je veux le souligner parce que Maxi s'est excusé. Je trouve ça quand même très, très bien, là. Ils ont entendu. Puis, tu sais, le fait aussi de s'aliéner une bonne partie de leur clientèle, ça non plus, c'est pas le fun. Il y a beaucoup de personnes grosses qui font leur épicerie chez Maxi en passant, là. Donc, ces gens-là étaient pas contents. Et cette campagne, depuis le départ avec Martin Matt et Maxi, cette association, c'est le fun parce que dans les pubs, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a beaucoup de diversité de corps. Et vraiment...
Et d'âge aussi.
Oui,
même.
Vraiment. Et donc, d'associer un certain type de nourriture à des grosses personnes, c'est comme de dire aussi, les gros, ils mangent juste de la nourriture transformée, juste de la junk, juste des affaires pas bonnes. Tu sais, fait qu'il y a ça aussi là-dedans. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant qu'on réfléchisse à tout ça. Moi, je pense que la publicité, elle est grossophobe. Est-ce que les publicitaires et Martin Matt ont voulu mal faire, ont voulu faire une pub?
Ben non, clairement
c'est
pas.
Sûr
ben
que non. C'est sûr que non, mais je trouve ça intéressant qu'on réfléchisse collectivement au message qu'on envoie, surtout quand on a du pouvoir comme une grande marque comme ça, ce que ça peut faire à une certaine partie de notre clientèle puis aux jeunes qui écoutent puis qui voient ça. Je trouve ça intéressant qu'on ait la discussion, qu'on en parle. Peut-être que j'ai tort. Peut-être que c'est vous autres qui avez raison. Mais moi, quand je l'ai vu, je suis même pas grosse puis j'ai eu un petit pincement, ça m'a heurté.
T'sais, moi, je me suis dit dès le départ, c'est
ça
sûr
va faire de la merde.
Ramasser. J'ai dit, c'est sûr, cette pub-là. Ouais,
mais ça démontre à quel point on a atteint un niveau de sensibilité.
Non, ça démontre qu'on a atteint un niveau de réflexivité.
Non, mais Je veux dire, écoute, on s'entend-tu, là, on revient souvent à cet exemple-là, mais juste des sketchs d'RBO là, des années 80, on s'entend-tu que il n'y a plus grand-chose qui est possible. Il faut être prudent, les pincettes tout le temps.
Non, on vit dans une époque, l'être humain évolue, la société évolue, la pensée évolue, il y a des choses qui étaient acceptables en 1975 qui ne le sont plus aujourd'hui, et c'est une bonne chose, et je vais aller plus loin que
absolument.
Ça. Pour qu'une pub soit efficace, elle doit s'inscrire dans son époque. Et je ne vois pas comment les gens qui étaient dans cette campagne-là ont pu penser que cette pub-là allait passer à l'époque dans laquelle on évolue, qu'on soit d'accord ou pas.
Je termine, Geneviève, avec un clin d'œil, parce que, Maude, j'ai repensé à la chronique de Stéphane Plante un peu plus tôt cette semaine, qui nous parlait des biopics à venir. Et Stéphane nous disait qu'il y avait en préparation, c'est encore embryonnaire, mais un biopic sur Michael Jackson. Et je soulevais le point à savoir, est-ce qu'ils vont engager deux acteurs pour le jouer à l'âge adulte? Parce que, clairement, sa couleur de peau a tellement changé qu'il était plus blanc que
blanc
à la fin. Fait que je disais, est-ce que tu prends deux acteurs? Est-ce que tu prends un acteur noir que tu vas faire un white face? Est-ce que tu prends un acteur blanc que tu vas faire un blackface? Bref, on blaguait un peu, mais on disait, c'est tellement rendu sensible que probablement juste ça, ce serait un motif pour ne pas faire le film.
Ben,
ça démontre quand même à quel point il y a des décisions, des situations qui sont rendues ultra, ultra, ultra sensibles.
Ben, la grossophobie puis le racisme, je trouve que c'est un amalgame un peu rapide, mais je veux juste, parce que j'ai oublié de le dire, là, moi j'ai essayé d'avoir la NEB à mon émission après-midi, puis toi aussi, je pense que vous avez essayé de les avoir ce matin. Là. La NEB quand même, puis m'autorise à dire ça, là, ne veulent pas faire de sortie parce qu'ils reçoivent des menaces.
Ah, oh, mais non.
Les gens sont très violents. Et je trouve ça dommage. Vraiment, là, je trouve ça important qu'on dise, regarde, on en parle, on n'est pas d'accord. On n'est pas en train de s'insulter. On n'est pas en train de se créer des noms.
Tu ne tires pas les cheveux à Geneviève. Non,
puis
on est correct, on est à deux mains.
Je trouve ça intéressant qu'on puisse réfléchir ensemble dans des points de vue qui sont divergents. Puis peut-être, chacun de notre bord, faire notre bout de chemin. Fait que les menaces,
absolument.
La gang, là, sérieusement, c'est non. Là. Pas de menaces.
Absolument. D'ailleurs, prenez exemple sur ce qu'on vient de faire les trois ensemble.
Sur les médias sociaux.
Et de discuter.
Oui, ma
voilà.
Bande est pleine de haine. Merci.
Hey, Geneviève, merci. On t'écoute à 13h sans faute.
Merci.
Salut.
Vous écoutez Franchement dit.
Et là, on tombe vraiment dans le domaine de « mon Dieu qu'on aime ça se créer des problèmes au Québec, mon Dieu qu'on aime ça rendre les choses qui pourraient être simples tellement compliquées ». Et c'est le cas avec cette nouvelle qui est sortie dans la presse ce matin, alors qu'on apprend qu'il y avait une association annoncée au cours des derniers jours entre les restaurants Saint-Hubert et la gang de Romeo's Gin, c'est la même gang que Pure Vodka, bref, Nicolas Duvernois, qui avait dit, ben regardez, on a des petites canettes là, de gin and tonic, là, Romeo's Gin, c'est 7% d'alcool, petite canette, vous savez quoi, en commandant votre poulet, et tu nous as dit, d'ailleurs, les études démontrent à quel point le poulet est populaire en temps de pandémie.
Ah oui, fan numéro 1.
Il disait, vous pouviez déjà vous commander une bouteille de vin ou de la bière en canette ou en bouteille, savez-vous quoi, petite canette de Romeo's Gin, on va pouvoir faire ça. Et là, finalement, ils ont appris à leurs dépens que non, pas le droit de faire ça. Nos fameuses lois désuètes arriérées nous empêchent de faire ça. Je trouve ça incroyablement déplorable, frustrant, alors qu'on essaye de faire la promotion des produits québécois. On va en discuter avec le PDG de Duvernois Esprit Créatif, Nicolas Duvernois, qui est au bout du fil. Salut, Nicolas!
Salut tout le monde, comment ça va?
Ça va bien. Écoute, je trouve ça dommage parce que la première fois qu'on s'était parlé, je regardais ça, c'était le 23 mars, alors que vous aviez annoncé que ta gang changeait la production, puis au lieu de faire de l'alcool pendant un bon bout, vous étiez pour faire du gel désinfectant pour les mains. Puis tu sais, c'était le fun, on dit il y a quelque chose de positif là-dedans. Tout le monde se serre les coudes. Mais là, malheureusement, le contexte est un petit peu plus déprimant aujourd'hui. Parce que il y a quelque chose de profondément ridicule, je trouve, dans ça. Premièrement, j'ai envie de te dire, est-ce que tu as été surpris d'apprendre que ce que vous aviez mis de l'avant comme initiative Saint-Hubert et toi, c'était pas légal carrément?
Bien, c'est sûr qu'on est surpris de ce côté-là, parce que quand on fait quelque chose, autant mon entreprise que Saint-Hubert, on s'assure d'avoir toute la loi de notre côté. On s'entend qu'on n'est plus. On n'est plus le pur vodka d'il y a 15 ans, qu'on savait pas trop quoi faire. Aujourd'hui, on est quand même une grande entreprise, donc c'est sûr qu'on s'assure que d'être plus blanc que blanc. Cependant, ce qui me surprend, c'est et ce qui me réjouit finalement, c'est que regarde, finalement, grâce à cette erreur-là, on soulève une incohérence là de la loi et on ouvre une discussion. Puis j'en suis certain, sans blague, là, que la loi va changer à cause de cette erreur-là, parce que on réalise à quel point. C'est pas une personne qui est ridicule, mais c'est la loi. Puis c'est surtout que la loi a pas évolué au fil des dernières années avec l'essor fulgurant de l'arrivée des spiritueux du Québec. T'sais.
Qu'est-ce qu'elle dit, la loi, en fait, Nicolas? Il est où le problème? En quoi cette... Tu sais, je pense que tu le mentionnais dans un article ce matin qu'on puisse pas nécessairement acheter un 41 de fort au restaurant, je comprends, mais qu'est-ce qui fait que c'est pas légal dans ce cas-ci?
C'est une technicalité de production. Donc, j'aurais le droit de vendre un Romeo Gin Tonic, mais si l'alcool de base, donc, était à base de malt, donc, disons comme une bière modifiée. Mais vu que mon alcool est à base de spiritueux, là, j'ai pas le droit. Peu importe le format, peu importe le pourcentage. Parce qu'on s'entend que si c'était une question de sécurité, de santé publique, ben, je le comprends absolument. Mais moi, c'est un format de 250 ml à 7%. Mais on a le droit de vendre du vin à trois fois le volume puis à deux fois le pourcentage d'alcool. Donc, là, j'enlève ce critère de santé publique. Ensuite, j'enlève le critère de c'est compliqué à transporter une canette, c'est bien plus facile à transporter que quoi que ce soit. En plus, nous, nos produits, contrairement aux bouteilles de vin, sont recyclés à l'infini, hein, c'est en aluminium. Donc ça, il y a beaucoup de points là que je comprends pas nécessairement, mais je suis bonne humeur aujourd'hui parce que je vois le tollé que ça crée. Et finalement, j'ai pas vendu une canette de plus, mais peut-être que ça va permettre à toute l'industrie d'avancer. Parce qu'on se rappelle que moi, c'est un produit qu'on allait vendre, mais il y a 17 produits prêts à boire au Québec, québécois, là, de distillerie québécoise, qui, si la loi change, pourraient vendre. Donc, c'est presque encore mieux que mon affaire n'ait pas passé et que les autres ne vendent pas, que mon affaire n'a pas passé, mais que peut-être que 17 d'entre nous vont pouvoir vendre. Tu comprends?
Et si je t'invitais à jouer au devin, à faire une prédiction, est-ce que tu penses que le chemin emprunté va être celui d'une modification temporaire à cause des circonstances actuelles, puis que là, les autorités pourraient voir que ça se passe bien, il n'y a pas de dérapage, et pérenniser une modification comme celle-là, ou tu penses que rapidement, là, on pourrait changer de façon permanente la loi?
Moi, je crois que au début, ça va être temporaire de par la complexité de changer une loi. Je suis pas politologue de formation. Hein. Moi, j'ai fait sciences politiques. Fait que là, je comprends toutes les dédales administratives et c'est complexe. Cependant, c'est clair que ça va devenir pas temporaire, là, mais à temps plein, entre guillemets, parce que c'est rare qu'on passe un projet de loi qui est win-win-win. La SAQ va faire plus d'argent parce qu'ils vont vendre plus de canettes aux restaurateurs à des belles marges. Le restaurateur va pouvoir offrir une offre de plus d'origine québécoise, donc c'est génial. Et le producteur, va pouvoir vendre plus de canettes, surtout que là, nos canettes, nous, notre grande offensive cet été, c'est de faire tous les festivals.
On est bien parti.
Je vais la faire dans ma douche. Fait que tu sais, le consommateur est gagnant parce qu'il reçoit en plus un produit québécois. Tu sais, franchement, là, on parle d'entrepreneuriat québécois. Depuis 3 mois, on parle de l'importance de supporter les entrepreneurs. On parle de comment sauver, surtout, l'industrie de la restauration. Cette erreur-là répond à tous les critères. Donc,
oui.
C'est une super belle erreur. Et j'espère qu'on m'écoute et qu'on va faire un changement. Je le répète, pas juste pour moi, mais pour toute l'industrie des spiritueux québécois.
J'espère, Nicolas, parce que, tu sais, puis on reconnaît ton positivisme, ton optimisme, mais c'est dur de pas y voir une certaine hypocrisie, justement, tu sais, dans le fameux message de la fierté des entrepreneurs, puis l'achat local. Ouais. On devrait pas mettre des bâtons dans les roues de nos entrepreneurs, on devrait leur faciliter la vie, on devrait les mettre en vitrine, puis là, c'est carrément le contraire qu'on fait avec ça.
Ouais. Ben, je te dirais que moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que la personne qui était responsable, qui a envoyé une lettre, là, autant à Saint-Hubert, puis je crois à l'Association des restaurateurs du Québec, aurait plutôt dû réfléchir, puis appeler son boss, puis dire « Hey, regarde là, ce qui se passe. Je crois qu'il y aurait peut-être une modification à faire. » Tu sais, là, on a puni plutôt que réfléchi. Puis tu ne peux pas montrer à un enfant, tu sais, si on prend l'exemple de l'enfant, comment faire la bonne manière ou comment évoluer si c'est que d'une punition. La Régie des alcools et des jeux du Québec ont une raison d'être et ils sont importants. Cependant, ce qu'ils devraient faire, c'est de suivre l'évolution de la consommation du public. On veut pas se retrouver en retard comme on a été en retard dans le commerce électronique, puis on voit à quel point ça nous fait mal. Aujourd'hui, là, ça fait 10 ans que j'ai vendu ma première bouteille de pirate. On était les premiers, OK? On était les pionniers au Québec en spiritueux. Et en 10 ans, il y a plus de 60 producteurs qui ont vu le jour. Donc, c'est sûr que la loi n'a pas suivi cette fulgurante ascension des spiritueux du Québec. Et puis, se draper de l'achat local, c'est exactement ça mon point. C'est que là, c'est deux entreprises québécoises, parce que Saint-Hubert, c'est une entreprise québécoise. Tout le monde me dit, oui, mais ça, la structure corporative en haut, ça appartient à des Ontariens. Mais Saint-Hubert, c'est des restaurants franchisés. Puis c'est des franchisés québécois.
Absolument.
L'emploi des Québécois, le siège social est au Québec, puis les dirigeants sont au Québec. Donc moi, j'appelle ça une entreprise québécoise, selon ma définition. Mais tout ça pour dire que, imagine tous les restaurants pourraient offrir cette offre de plus. Mais ça serait génial. Tu sais, pour l'industrie, la meilleure manière de sauver l'économie au Québec, c'est qu'une entreprise québécoise donne un contrat à une autre entreprise québécoise. Et que le consommateur québécois achète donc cette nouvelle offre. C'est comme ça qu'on va s'entraider. C'est pas en disant t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ci.
Nicolas Duvernois, j'ai comme une grande question que je me pose parce qu'on dirait que on le voit un peu aussi avec les restaurateurs qui disent ben présentement on aimerait ça nous aussi en vendre de l'alcool. On le voit avec toi qui a voulu faire une association avec Saint-Hubert pour vendre de l'alcool, pour tu sais trouver un moyen différent. Comment ça on a donc bien de la misère, on dirait au Québec, on est donc bien. Est-ce qu'on est frileux? Comment ça si on a de la misère de même?
Oui, on est extrêmement frileux, mais c'est que la loi n'a juste pas évolué. Pourquoi? Sincèrement, je ne le mets pas sur le dos de aucun politicien ou fonctionnaire. C'est juste qu'en 10 ans, ça a explosé à une vitesse grand V. Regarde ce qui se passe avec les Netflix de ce monde, les Amazon, les Uber. Pourquoi on trouve que c'est inadmissible? C'est parce que la loi sera toujours moins rapide que l'entreprise privée, de par sa réalité d'être une loi publique. Donc, il y a des débats, il y a de l'ostination, tu comprends à quel point ça peut être compliqué de changer ne serait-ce qu'un tout petit détail dans la loi. Donc, pendant ce temps-là, l'entreprise privée innove et dépasse la réalité de la loi. Donc, il faut que perpétuellement, on se penche sur toutes les lois, puis toujours les adapter à la nouvelle réalité. Mais je suis convaincu que ça va changer parce que, comme je le dis, là, tu sais, je fais pas une job de lobbying en ce moment. Je fais une job de « Oh my God, c'est tellement logique qu'on fasse ça. »
Ben oui.
C'est une logique là, que j'offre. Là. C'est pas Nicolas Duvernois veut juste vendre ses affaires tout seul. Là, tu comprends?
Non, absolument. Est-ce que tu as eu des signaux depuis ce matin? Y a-tu des décideurs?
Ben moi, j'ai eu des milliers de commentaires de personnes qui étaient déçues que hier, ils étaient tout contents d'aller commander du Saint-Tube hier soir. Mais j'ai eu des milliers de personnes qui disent « Ben écoute, t'as extrêmement raison. Il y a un mixologue qui a plusieurs bars à Montréal, Kevin Demers, qui a fait un peu une sortie sur Facebook, qui était très intéressante aussi, où là, c'est pas le temps. Là, c'est... selon moi, là, je veux bien m'exprimer, mais je dis pas de pas respecter les lois, mais je dis que maintenant, plus que jamais, il faut une certaine flexibilité et une rapidité d'exécution sur les lois. Parce que, on s'entend, les restaurants, ça fait 3 mois qu'ils vont bientôt être fermés. Fermés, là, pas comme... un peu ouvert, fermé total, les bars à cocktails aussi. Est-ce qu'on les laisse juste crever comme ça? Sans blague, là, tu sais, c'est vraiment une question que je pose. Parce que si c'est ça, parfait, on est tous d'accord. Une des richesses, autant dans la ville de Québec que Montréal, que d'ailleurs, en province, c'est justement tous ces bars, ces restaurants, ces petits comptoirs qui ouvrent, puis qui ont des chefs puis des mixologues exceptionnels qui travaillent derrière. Puis là, eux, ils sont chez eux, ils tournent le pouce, là, à 2 000 $ par mois. Ils veulent pas être là. Ils ne veulent pas être là. Ils veulent innover. Ça. Ils veulent aller vite. Ils veulent bouger. Puis ils veulent survivre.
T'sais? T'sais, et je vais terminer là-dessus, Nicolas. Mais quand on regarde les entreprises qui réussissent, là, on va parler de différents facteurs, mais notamment l'ingéniosité, la flexibilité, l'agilité. Ouais. Ça, vous l'avez. Par contre, il faut que les autorités suivent aussi. Il faut qu'ils soient capables d'emboîter le pas pour vous permettre de maximiser votre potentiel. Ben, Nicolas Duvernois, PDG de Duvernois Esprit Créatif, notamment derrière le Romeo's Gin
et
le pur. Ah oui, ça me donne soif.
Le pur, la pure vodka.
Merci Nicolas. On va espérer que ça change bientôt.
Merci beaucoup. Puis vous savez quoi, je suis content d'avoir fait cette erreur là parce que ça pousse à la discussion.
Absolument, absolument. Un bel accident. Merci Nicolas.
Franchement dit.
Jonathan Trudeau.
Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1-877-827-2346. Cube Radio.
Cube Radio. On va terminer l'émission avec notre ami Vincent Dessureau. Salut!
Salut!
Air Canada, je comprends qu'ils n'ont pas la cote en ce moment, là, mais ils ont quand même publié un projet qui va intéresser bien des gens sur la nouvelle façon de voler.
Oui, qui a été quand même un peu viral dans les dernières heures, mais qui là commence à faire le tour du monde. Parce qu'Air Canada, à partir du 1er juin, va sur 2 destinations et ça touche le Québec parce que c'est Toronto-Montréal et Toronto-Ottawa. Okay. Va utiliser des avions uniquement classe affaires de sa collection Air Canada Jets, J-E-T-Z, qu'on utilise pour les équipes de sport professionnel et des vedettes. On va les vendre au prix de Economy Premium. ce qui est généralement pas beaucoup plus cher, quoique j'essaie d'aller fouiller les prix, là, puis c'était quand même un bonbon là, de 160$ à comme 600$, là, mais il y aura peut-être des meilleures affaires à faire dans le courant de l'été, ce sera à surveiller, mais cet avion, ces avions-là, on parle de Airbus A319, transportent les Maple Leafs et les Canucks de Vancouver normalement, ont transporté aussi Bruce Springsteen, Phil Collins et U2 par le passé, et donc eux, on parle d'avions à peu près identiques de l'extérieur, à part que c'est écrit Jets, là, mais à l'intérieur, 58 sièges classe affaires, donc c'est seulement 15 rangées, en cuir italien. Sans écran, par contre, vous avez accès au Wi-Fi là, pour utiliser votre écran personnel. Pas de siège du milieu, évidemment, dans tout l'avion. Embarquement très rapide parce qu'il n'y a pas grand monde. Là. Alors, l'embarquement se fait 25 minutes avant le vol et donc permettra de respecter la distanciation physique facilement pour Air Canada. Encore là, il faudra surveiller les prix parce que oui, c'est dans une catégorie inférieure, donc c'est comme un upgrade gratuit, mais le prix...
Cuir italien, t'as dit cuir italien, c'est sûr que c'est pas donné.
C'est ça, ils Air Canada, mais quand même le prix qu'ils veulent. Alors, ils peuvent bien le mettre dans la catégorie premium, mais ils peuvent mettre le prix qu'ils veulent. Alors, on verra l'intérêt pour ce genre de choses-là, alors que les autres avions d'Air Canada, beaucoup sont convertis en que cargo. D'ailleurs, communiqué d'Air Canada, qui est sorti tantôt pour dire qu'on allait accroître l'horaire des vols tout cargo. 4 nouveaux appareils Airbus des Boeing 777 qui vont aller Bogota, Lima, Amsterdam, Dublin, Madrid en version tout cargo. Ils ont fait Air Canada 1200 vols tout cargo depuis la fin mars. C'est un record là, parce qu'on a converti des avions de passagers en cargo. Puis il semble que ça fonctionne quand même bien dans le monde, la conversion au cargo. Ça sauve pas les meubles, là, mais disons une table de chevet là, pour les pour les compagnies aériennes qui en arrachent.
Table de chevet, là, ils tirent les lampes. En tout cas, il y en a qui ça peut-être être une occasion d'essayer ça. Là, moi, j'ai jamais essayé la classe affaires. Ça pourrait être une occasion à meilleur coût de pouvoir essayer ce luxe-là.
Jonathan, quand t'es en classe affaires, je suppose, le fun, c'est de regarder toutes les pauvres passer à côté de toi. Mais là, tu peux pas. C'est toutes les...
sentir comme supérieur.
Je veux dire, tout l'avion est en classe affaires, puis t'es comment? Tu te lèves le nez, mais je veux dire,
c'est ça,
tout le monde est égal. Fait que t'es pauvre égal dans ton gros siège en cuir italien.
Voilà la plèbe. Non, moi, je pense que je trouverais façon de l'apprécier quand même. Okay. Merci, Vincent.
Merci.
On t'écoute avec Sophie pour tes nouvelles, puis avec Mario cet après-midi. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Un gros merci à toute l'équipe, à Achille Moinet, à Michael Labranche, qui était à la recherche aujourd'hui, et Alexandre Moranville-Ouellette. On pense à notre ami Frédéric McCall, qui s'est pété à fiole en vélo.
Oui.
Mais il va bien. Mais quand même, on passe à toi, Fred. Bon, je te souhaite un excellent week-end. Il y a Sophie Durocher qui s'en vient. On se donne rendez-vous lundi à 10h. Salut.